Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix du Brésil. Ça y est, c'était le dernier Grand Prix, le dernier de la saison, le dernier des V8 avant sans doute un paquet de temps. Pour m'accompagner ce soir, bonsoir Gus Gus.
Bonsoir.
Bonsoir Ben.
Bonsoir.
Et pour cette dernière de l'année, nous avons un invité, en plus c'est un nouveau, on l'avait jamais eu donc c'est toujours chouette. Bonsoir Destino Fatalis.
Juste Destino, ça ira.
Oui.
Bonsoir à tous.
Alors comme d'habitude, qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix ?
On va pouvoir partir en vacances.
Ah, c'est le truc que tu reviens.
Moi j'en reviens. Je commence les miennes, donc ça va ?
Non, pas un Grand Prix inintéressant, surtout grâce à l'ambivalence entre le vendredi et le samedi et le dimanche.
Non mais encore une fois on y a cru et encore une fois c'était très bizarre quand même dimanche, c'était un temps de pluie
oui.
Mais non.
Puis on pourrait penser que ça a un peu influencé les écuries sur la stratégie à un moment où on voulait pas trop rentrer alors que les pneus étaient bien usés, enfin c'était une menace bien pesante et du coup ça a mis les écuries un peu dans la mouise parce qu'il y en a qui ont ça a influencé les stratégies. Là il y a eu 3 ou 4 stratégies différentes alors que d'habitude il y a vraiment que 2 choix.
Faut dire qu'ils avaient vraiment pas prévu ça quoi. C'était étrange. Et pour la dernière fois de l'année, souvenez-vous, ce dimanche, c'était un peu plus tard que d'habitude, mais nous étions quand même un 24 novembre.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite.
Et donc cette semaine, pour l'éphéméride, le chiffre de la semaine, écoutez bien, est le chiffre 4,5.
Question bête, est-ce que ça a un rapport avec la Formule 1 ?
Non, je ne pense pas.
Y a une unité derrière commune.
Oui.
De longueur.
Non.
De temps.
Non.
De force, de puissance.
Non.
C'est un nombre de personnes.
Ah, c'est 4,5, hein, je rappelle. Hein. Donc, mais non, ce n'est pas un nombre de personnes.
En même temps, chaque femme en France a 1,9 enfants. Donc.
C'est vrai.
Donc une unité usuelle, hein, t'as dit.
Oh,
donc,
tout à fait usuelle.
Des litres.
Non. Plus simplement.
Des centimètres.
Pas des centimètres.
Des mètres.
Des pas tonnes, des, mètres. Des kilos.
C'est des kilos.
4,5 kilos.
Oui.
C'est un objet seul qui pèse 4,5 kilos.
Tout à fait.
D'accord. Un objet manufacturé.
Oui, l'effet de la main de l'homme.
En masse.
Ah non, il n'y en a qu'un.
C'est qu'un seul exemplaire.
A priori, à ma connaissance, il n'y en a qu'un.
C'est une sculpture
Ça peut être assimilé à de la sculpture.
C'est un art, c'est quelque chose d'artistique ?
Oui, on peut dire que c'est artistique, oui.
Mais tu dis oui, on peut dire que c'est une sculpture, mais c'est pas franchement... Enfin, on trouverait pas ça dans un musée.
Dans certains types de musées, oui.
Mais genre au Louvre, par exemple, non.
Non, je pense pas.
Non, c'est un musée thématique, quoi, le musée
oui,
de la chaussure, ou
voilà.
Je sais pas quoi. C'est technologique ?
Non, pas non.
Donc ça pèse 4,5 kilos, on peut trouver dans un musée spécialisé... pas technologique.
Quand tu dis spécialisé, ça veut dire par exemple par rapport à une civilisation particulière ?
Pas par rapport à une civilisation particulière, mais...
Non, mais genre, ce serait par exemple un ordinateur qui pèserait 4,5 kilos et qui serait au musée de l'informatique, quoi. C'est un truc
Oui, enfin, c'est pas ça, mais oui.
Tu dis que c'est une sorte de sculpture, c'est fabriqué de manière artisanale ?
Je pense, oui.
En matériaux usuels, genre du métal ou...
Oui, mais... Oui. Enfin,
pas
oui,
pas seulement. Qu'est-ce qui peut peser 4,5 kilos? Un pneu, genre, je sais pas.
Oh non, c'est quand même plus rare qu'un pneu.
C'est plus rare qu'un pneu.
Oui, là je précise, non, a priori il y en a qu'un. Après, quand tu disais matériaux usuels, je peux dire qu'il y a de l'argent et par exemple un peu d'or dessus.
Mais il y en a qu'un parce qu'on ne sait en faire qu'un ou on pourrait envisager qu'on le reproduise?
Ah oui, on pourrait le reproduire, techniquement on pourrait le reproduire, mais il y en a qu'un.
C'est ancien?
Pas tant que ça.
De l'argent, de l'or et des médailles olympiques?
Non, mais on est dans le domaine du sport.
Donc c'est un trophée, un prix...
Tout à fait, c'est un trophée. D'où le côté que ça pouvait être dans un musée thématique.
D'accord.
Voilà.
Ouais, d'accord, d'accord.
Ah, la Coupe du Monde de foot.
Pas la Coupe du Monde de foot.
Attends, novembre. Le Ballon d'Or.
Non. Ça ne correspond pas forcément au moment où on donne le trophée.
Mais c'est une coupe, enfin c'est une coupe de football.
Ah, pas de football.
La Ligue des Champions ou...
Pas la Ligue des Champions.
La Coupe de l'UEFA?
Pas la Coupe de l'UEFA.
La Coupe de l'Euro 2012?
Pas la Coupe de l'Euro 2012.
La Coupe du Monde des clubs?
Pas la Coupe du Monde des
clubs. La Coupe de France?
Pas la Coupe de France.
La Coupe de la Ligue?
Pas la Coupe de la Ligue.
C'est du foot ou quoi?
C'est pas du foot.
Ah, c'est pas du foot.
Ça a un rapport avec le sport auto ou pas du tout?
Non.
Pas du sport auto, c'est pas du foot.
Mais c'est un trophée très, très connu. Enfin,
c'est... Oh,
on connaît
même.
Plus la compétition que le trophée?
Peut-être, mais quand même, c'est un trophée qui est quand même assez connu. C'est peut-être pas le plus connu des trophées. Bah,
la Coupe du Monde de rugby? Le truc où c'est William Webb Ellis ou je sais pas quoi?
Exactement, Gus Gus. Ah. C'est le poids de la Coupe William Webb Ellis, qui est donc le trophée de la Coupe du Monde de rugby. Donc ça, a priori, je pense qu'il y en a qu'une, parce que je pense qu'elle doit être transmise d'une équipe à l'autre, mais peut-être que des copies sont faites pour les équipes quand elles gagnent, mais a priori, il n'y en a qu'une. Et alors, c'est pas exactement l'anniversaire de la Coupe, mais c'est l'anniversaire de ce fameux William Webb Ellis. Est-ce que vous savez qui c'est?
Pourquoi on a... Non, mais tu vas nous le dire.
Pourquoi on a donné ce nom précisément au trophée de la Coupe du Monde de rugby?
Le créateur du rugby?
Eh bien, oui, exactement. Enfin, c'est là où ça devient intéressant. Donc, il est né le 24 novembre 1806 et il serait le créateur du rugby. C'est là où ça devient très intéressant parce que la légende raconte que donc il était étudiant au collège de rugby, qui est une ville du Royaume-Uni, et au cours d'un match, alors un peu d'un ancêtre du foot, c'est pas encore le foot, on est dans les années 1823-1824, alors qu'il jouait au pied, il aurait fait cette folie dingue de prendre le ballon à la main pour marquer un but, un essai, je sais pas encore comment on peut appeler ça, mais il a pris le ballon à la main, et voilà, c'est comme ça qu'il aurait créé le rugby.
L'histoire ne dit pas s'il a pris un carton rouge au passage.
Alors on ne sait pas. Et
s'il a si c'est un ancêtre de Thierry Henry.
Je connaissais moi une autre de légende à propos de la création du rugby, mais elle, ça avait vraiment rien à voir avec la tienne de version. Je sais pas si je.
Ah bah vas-y, vas-y aussi.
Moi, on m'avait toujours expliqué que la création du rugby, c'était donc cette personne-là qui avait pris. Qui avait attrapé un ballon d'un jeu qui existait, qui s'appelle La Soule, qui est un jeu français.
Oui.
Et qui existait aussi en Angleterre. Mmh. Et que, on pouvait jouer au pied ou à la main. Mmh. Et tous les coups étaient permis. Mmh. Et que, il a défini, la limite des terrains en faisant une course sur un terrain près du collège. Mmh. Après, je sais pas si elle est véridique ou pas.
Bah, justement, pour le coup, tu vois, il y a des choses qui ressemblent. C'est là qui est intéressant avec cette légende. Parce qu'on n'est pas vraiment sûr qu'elle soit vraie. S'il l'a fait, on ne sait pas vraiment pourquoi il l'a fait. Alors peut-être qu'en effet c'était par rapport à des règles. Est-ce qu'il avait le droit? Est-ce qu'il n'avait pas le droit? On ne sait pas. On ne sait même pas s'il l'a vraiment fait. Webb Ellis n'a jamais pu répondre à ça puisque sans doute il est sans doute mort en ne sachant même pas qu'il avait inventé le rugby.
Il est sans doute mort déjà. C'est
oui,
intéressant comme concept.
Non, il est mort. Rassurez-vous, il est décédé. Hein. Il est décédé en 1872. Mais alors, faut savoir par exemple que Webb Ellis n'a jamais été dans l'univers du rugby, même naissant. C'est-à-dire qu'après ses études, visiblement, on avait plus de chances de le voir jouer au cricket. Et il a passé sa vie en tant que pasteur. Et faut savoir qu'il est décédé dans le sud de la France et que sa tombe est à Menton. Et cette fameuse histoire donc du fait qu'il aurait pris le ballon à la main, comme par hasard, est arrivée 5 ans après sa mort.
Comme par hasard.
Voilà. Et donc, voilà, comme je disais, on ne sait pas trop, est-ce qu'il l'a vraiment fait, est-ce qu'il l'a pas fait du tout, mais malgré tout, pour ce qui est devenu aujourd'hui l'IRB, hein, la Fédération Internationale de Rugby, ben c'est lui qui a inventé le rugby, c'est même littéralement gravé dans le marbre, puisqu'il y a des plaques dans le collège de rugby, il y a une plaque sur sa tombe, et ils ont donné le nom de cette coupe à son nom, quoi. Même si ça se trouve, il n'a jamais inventé le rugby, parce que c'est vrai que la création du rugby, elle se fait aussi au cours du 19e siècle, c'est ce moment où il y a une forte explosion des sports collectifs en Angleterre, hein. Vous savez, on veut éduquer à la fois les esprits et les corps, et donc on fait des sports collectifs, et donc en effet des dérivés un peu, tu disais, de tous ces jeux médiévaux comme l'assou, le calcio italien, où on passait parfois plus de temps à se taper sur la gueule que de marquer des buts ou des essais, hein. Et à l'époque,
c'est ça, là, ouais,
et à l'époque, faut dire que en fait chaque collège avait un peu ses règles. Et donc, quand ils se déplaçaient dans un autre collège, en fait, on jouait la règle de celui qui accueille. Puis au bout d'un moment, ils se sont dit, ouais, ça serait pas mal quand même de codifier un peu tout ça, hein, ça serait plus simple. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu cette scission entre ceux qui disaient, ouais, on va jouer à la main et tout, on va faire un sport de contact, et ceux qui disent, non, 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 nous, on veut juste jouer au pied, hein, c'est très bien comme ça, hein, et donc, parce que le foot, hein, entre guillemets, un peu une scission du rugby, c'est à ce moment-là que les deux sports se sont séparés.
Mais c'est aussi cette fête d'unifier les règles qui a l'origine du A de la FIFA et de l'UEFA, parce que le football, le nom complet, c'est Football Association, parce qu'ils ont associé toutes les règles des différents
collèges. Et pendant longtemps, la fédération de rugby s'appelait la Rugby Football Union. Il y avait le mot football, alors que c'était ce qu'aujourd'hui on appelle du rugby.
C'est le football de rugby par opposition au football à l'autre football, le football association.
Donc voilà, vous avez été pas trop mal.
C'était fut un bien bel éphéméride, Sylvie.
Tu me l'enlèves de la bouche.
Alors j'aurais aimé vous dire ce qui s'est passé en F1 ce jour-là, mais comme les précédentes semaines, voilà, nous sommes fin novembre, donc
ouais, la retraite de Marc Webber.
Voilà, il y a la retraite de Marc Webber.
Enfin. Et
je m'oppose à ce que tu viens de dire. Et je transmets un mot à la femme de Elder, qui doit être en deuil.
Et puis je répète, c'est pas vraiment une retraite, c'est un changement d'orientation tardif.
Oui.
Et bien.
Pour en bien, j'espère.
Espérons-le.
En même temps, Montoya, il fait aussi un changement de carrière. Hein. J'ai vu une photo, il avait du mal à rentrer dans son début.
Je me posais la question si ça avait été un photomontage.
Et en fait, je sais plus si c'est une photo ou si c'est la miniature d'une vidéo. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'il pousse pour rentrer. En fait, ils ont mis du beurre, donc il glisse.
Mais vous êtes dur.
Gus Gus, on va passer au pourquoi pas, parce qu'on a un invité quand même cette semaine. Ça faisait longtemps.
Bah, eh oui, allons-y.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'heure de gloire de l'invité.
Et donc, Destino, tu le sais bien puisque tu nous écoutes régulièrement. D'ailleurs, question qu'on n'a pas posée depuis un petit moment, comment est-ce que tu nous as découvert?
Alors, je vous ai découvert par l'intermédiaire de Twitter.
Ah.
C'est assez original comme
pour une fois.
Comme découverte. Je m'étais inscrit sur Twitter il y a maintenant 2 ans et au cours de du premier Grand Prix de saison l'année dernière, pour le bris de suspension de Romain Grosjean, j'ai envoyé un tweet à Christophe Malbranque, et je ne sais plus si c'est Dino ou Sinji qui m'a répondu, et depuis je suis, et j'ai découvert un peu indirectement, voilà.
Bien.
Dis donc.
Et donc. Les hasards font bien les choses.
Oui. Et donc, puisque tu nous suis depuis donc 2 ans maintenant, tu sais par quoi commence le quart d'heure d'invité, j'espère.
Le pour pas pour.
Voilà. Donc, le petit principe pour les derniers qui nous ont rejoints. Hein. Donc, 10 sujets. Tu nous dis à chaque fois si t'es pour ou si t'es pas pour. Bien évidemment, il y a un le nom contre est à proscrire, hein, est à pas prononcé, sinon il y a un gage à la clé.
Mais on le donne jamais, donc.
On ne donne jamais, effectivement. Déjà parce qu'il y a pas souvent de gens qui se trompent et que de toute façon
on
a
autre. Défini au moins.
Oui, on va dire ça comme ça. Et donc à la fin des 10 propositions, tu reviens sur 3 sujets de ton choix, plus un sujet imposé qui est commun à tous nos invités de cette année. Est-ce que tu es prêt?
Ouais.
Alors, pour ou pas pour des Pirelli beaucoup plus durs en 2014?
Pas pour.
Pour ou pas pour Jean-Louis Moncey?
Pas pour.
Pour ou pas pour ceux qui postent des photos sur Instagram quand ils cuisinent?
Pas pour.
Pour ou pas pour un duo Hülkenberg-Pérez chez Force India?
Pour.
Pour ou pas pour la visite du McLaren Technology Center sur Google Street View?
Pour.
Pour ou pas pour l'inscription de Rose Brown au championnat du monde 2014 de pêche?
Pas pour.
Pour ou pas pour un championnat de F1 avec 8 équipes de 3 voitures?
Pour.
Pour. Pour ou pas pour le circuit de Marina Bay à Singapour? Parce qu'il n'y a pas de raison que chacun mette pas son circuit préféré.
Marina Bay, je suis pour.
Pour ou pas pour un accord Quantum Lotus?
Pas pour.
Et enfin, pour ou pas pour la F1 sur les chaînes payantes?
Pas pour.
Alors justement, ce sujet, comment est-ce que t'as suivi la saison 2013?
Par nos amis de la radio-télévision du Canada.
Ah ouais, avec l'accent et tout.
Oui. Donc je n'ai pas les commentaires de... Je ne sais même pas quels sont les commentateurs pour la France. Je ne pourrais pas juger.
C'est
leur
Jacques
niveau.
Villeneuve. Mm-hmm.
Justement,
oui.
Lui aussi, notre part de Canada.
Donc, ils sont pas méchants, ils meublent, je ne pense pas que c'est pire que le trio qu'on avait précédemment.
Ah, ça. Et donc, les 3 sujets sur lesquels tu voudrais revenir, les 3 autres sujets, déjà, t'as dit pas pour, donc, la F1 sur les chaînes payantes.
La Formule 1 pour moi c'est je l'ai toujours connue sur une chaîne non payante, donc c'est ma volonté de pouvoir voir et de me lever à 4h ou à 5h du matin pour les grands prix en Extrême-Orient qui que je ne peux plus assouvir. Je viens décaler et je dois passer toute la journée à ne pas écouter la radio ou quoi que ce soit pour pas avoir à être défloré par le résultat du Grand Prix. Ça m'énerve un petit peu. Donc pas pour les chaînes les chaînes payantes.
Ok, donc alors les 3 thèmes que tu veux aborder, est-ce que tu veux que je te rappelle les thèmes?
Je vais déjà sur Pérez et Hülkenberg. Mm-hmm. J'ai dit que j'étais pour parce que c'est surtout pour Hülkenberg, un pilote que j'apprécie. Je vais faire de la publicité pour le Fantasy F1, ça fait partie d'un de mes pilotes qui est sur ma liste. Et s'il faut qu'il tourne, qu'il sort avec Pérez.
Donc plutôt pour Hülkenberg et pas pour Pérez, quoi.
Oui, tout dans ce sens-là, oui, plutôt. Ouais.
Parce que selon toi, Pérez, il est pas... c'est plus son porte-monnaie qui rentre en compte que son talent?
Je pense, un petit peu. Il a fait des belles choses avec Sauber l'année dernière. Résultat de cette saison, on a plus l'impression que c'était la voiture qui lui a permis de faire des belles choses que réellement son talent. Mmh. Après, avec la voiture, avec la McLaren de cette année, c'était peut-être trop tôt pour lui.
Deux autres sujets. Est-ce que tu veux que je te rappelle ce que tu nous as dit?
Oui, vas-y.
Alors, tu nous as dit que tu n'étais pas pour des Pirelli beaucoup plus durs en 2014, tu n'étais pas pour non plus Jean-Louis Moncey, ni pour ceux qui postent des photos sur Instagram quand ils cuisinent. On salue Dino au passage. Donc, pour Hülkenberg et Pérez chez Force India, également pour la visite du McLaren Technology Center sur Google Street View, pas pour l'inscription de Rose Brown au championnat du monde 2014 de pêche, tu étais pour un championnat de F1 avec 8 équipes de 3 voitures, pour le circuit de Marina Bay à Singapour, et ça me rend heureux.
C'est ton circuit préféré?
Non, j'exagère un petit peu, mais souvent on a ce débat dans l'émission, donc j'essaye d'en faire un petit peu la promotion.
Il est quand même bien meilleur que celui de Valence.
Indiscutable. Ouais. Tu étais également pas pour un accord Quantum Lotus, et enfin pas pour la F1 sur les chaînes payantes, on en a déjà parlé.
Pour le dernier parcours, je vais en revenir sur le fait d'avoir une saison à 8 équipes.
8 équipes de 3 voitures, c'est important.
Équipe de 3 voitures, oui, exact. Je pense que ça va aller dans le sens de Luca di Montezemolo. Une F1 avec 3 Ferrari, c'est toujours tout de suite plus intéressant pour en termes de choix de pilotes qui ne seraient pas des pilotes payants, mais qui seraient des pilotes qui seraient là pour leur talent, peut-être. Enfin, c'est un espoir. Ce n'est pas dit que ça existe réellement. C'est donc des équipes comme Mercedes ou comme McLaren ou comme Williams ou comme Lotus, enfin Enstone, on devrait plus parler de Enstone que de Lotus réellement. C'est le meilleur choix à faire peut-être dans un futur, vu qu'ils sont incapables de se décider sur les coûts financiers de cette discipline.
C'est vrai que c'est une proposition qui serait apparemment à l'étude selon des journalistes d'autosport. Ça a effectivement l'avantage de mettre plus de baquets compétitifs à disposition des rookies. Problème, c'est que pour appliquer ça, il faudrait se débarrasser d'écurie comme Marussia, Caterham.
Ouais. Techniquement, 3 équipes.
Techniquement, 3 équipes, alors qu'il serait, on imagine, Marussia et Caterham qui viennent de finir leur 4e saison sans marquer un seul point. Et Toro Rosso, qui, avec une 3e Red Bull, ne servirait plus à grand chose parce qu'on pourrait y mettre les jeunes pilotes de la filière.
Ça serait des podiums 100% Red Bull.
Mais
serait
il y a déjà eu des triplés dans les années 50 de Ferrari, notamment, mais c'est un risque, mais c'est sûr, c'est un risque d'hégémonie. Et effectivement, en cas d'un constructeur qui soit au-dessus, mais en même temps, s'il y a 3 constructeurs qui sont à la lutte, bah ça fait 9 voitures au lieu de ta double tranchant, quoi.
Ouais. Oui, mais on verrait pour la vente de châssis clients, mais.
Mais alors, il paraît qu'apparemment, cette proposition est à l'étude, c'est que justement les châssis clients sont pas passés. Parce que ça figerait qui est client et qui est constructeur.
Bah oui, en même temps, leur truc qu'ils voulaient faire, c'était... Enfin, t'avais pas le choix, entre guillemets, et Williams, qui a priori est plutôt en bas de classement, serait dans les conditions dont ils avaient parlé, aurait été obligé d'être cliente, alors que leur essence même, justement, c'est de construire leur voiture.
Et l'article en question sur Autosport parlait même d'écuries qui étaient capables de, enfin qui menaçaient de, si ça passait, de porter plainte pour fraude à la concurrence à l'Union européenne. Donc
oui,
ça a sûrement dissuadé tout le monde. On va trouver une autre solution.
Quand on voit les dégâts de l'Union européenne sur le football avec Larry Bosman, je pense que ça refroidit les ardeurs de tout le monde.
Oui.
Et donc, il reste encore deux autres thèmes, un dernier thème parmi les autres.
Rosebrand,
oui, à la pêche. J'étais pas pour.
À la pêche, non, je suis pas pour du tout. Je pense qu'il peut encore apporter beaucoup de choses à la Formule 1. Quand on voit son parcours, ça serait difficile de voir cet homme-là faire de la pêche.
Et il aime ça.
Ah, il adore ça. C'est sûr que s'il est pas en F1, il fera de la pêche.
Ouais, mais on parlait d'une année sabbatique en fait pour 2014 avec un retour en 2015 soit chez Ferrari ou alors chez McLaren Honda.
Et d'où ma question.
Oui, ben j'ai compris. Mais
ouais. il est resté évasif sur son avenir quand il a été interviewé à la fin de la course. Il a dit ce sera une bonne année ici chez Mercedes, mais on sait pas toujours si on sait toujours pas s'il en sera ou pas.
En tout cas, s'il revenait soit chez Ferrari, soit chez McLaren Honda, ça fait un peu je tourne en rond quand même, parce qu'il est passé chez Ferrari, il est passé chez Honda, et à chaque fois, c'est pour revenir auprès de personnes, enfin bon, Honda, c'est encore un peu particulier, c'est pour revenir auprès d'entités qu'il connaît déjà. Même si Williams serait pas contre l'avoir, mais bon...
Mais Williams, enfin Claire Williams a dit qu'ils avaient signé un nouveau partenaire, maintenant c'est partenaire, est-ce qu'ils sont en train de sponsor ou... un nouvel employé, qu'ils annonceraient ça début d'année, donc pas avant janvier. On peut penser que Rosebrand a un contrat jusqu'à fin de saison avec Mercedes.
Après, est-ce qu'il n'est pas aussi le genre de personne qui pourrait avoir une clause de non-concurrence ? Ce qui l'obligerait,
justement,
de faire son année sabbatique.
Ah, je pense qu'il a un petit peu fait cette année, non ? Parce que en ayant mis Toto Wolff au-dessus de sa tête et Niki Lauda aussi, on a grandement réduit ses
Ouais, puis il n'y a pas d'îlot au niveau technique. Enfin, il y a trop de monde chez Mercedes.
Il y a trop de cerveaux chez Mercedes. Donc forcément.
En même temps, ça changeait pas trop des années précédentes où il y avait Norbert Hogg. Hein. C'était pas. Ils ont rajouté qu'une seule personne et encore c'est non exécutif. Quoi. Niki Lauda est là.
Ouais, mais il est là.
Niki Lauda, on sait pas trop quoi il sert. C'est plus Padillo en fait. C'est plus Padillo qui fait un peu d'ombre à Ross Brawn.
C'est pas
vrai. Sinon, Toto Wolff il remplace Hogg, donc.
Padillo, il a quand même pas quitté McLaren pour simplement reprendre exactement le même poste chez Mercedes. C'est, enfin, je sais pas. Moi, si je quitte mon entreprise, c'est pour trouver un meilleur poste, pas.
Après, il est peut-être juste mieux payé. Et... Je sais pas.
Oh, ça va. Chez McLaren, il devait pas non plus.
Oui, puis à mon avis, Honda va mettre le pognon, donc si c'est pour l'argent, il est peut-être pas parti au bon moment, lui. Mais.
Eh bien, on passe à la suite de l'heure de gloire de notre invité. Destino, quelle est l'actu dont tu n'as rien eu à foutre ces dernières semaines? Texto, là, comme ça.
Rien eu à foutre hors sport ou sport compris?
Hors résultat de la F1. Mais en F1, bien
en
sûr.
En F1, oui.
L'information que j'ai rien eu à foutre, que Maldonado avait donné sa démission à Williams.
Un peu comme Perez, ça, c'est les pilotes valises que...
Oui, avec ses valises, il peut aller voir ailleurs.
Il paraît que c'est imminent, en tout cas, pour lui.
Ouais, bah, c'est comme quand tu dis, hein. C'est imminent, mais on va plus rien dire.
Ce serait quand même dommage qu'il atterrisse chez Lotus.
Oui, mais...
Ça ferait baisser l'estime que j'ai pour cette équipe.
Oui, en même temps, au bout d'un moment, ils auront plus le choix, quoi.
Il va plus rester grand monde.
Et de toute façon, ils le volent pas. Ça,
c'est
temps,
bah, c'est pas leur plan A, c'était peut-être limite pas leur plan B.
Non, c'est leur plan bis. B,
de toute façon,
B,
c'est
B,
au moins
bis,
le plan C, puisque le plan A, c'était on garde Kimi, ça a pas marché. Le plan B, on prend Nico. C'est, bon.
A priori, c'est mal
barré. A priori, c'est mal barré. c'est très mal barré.
Perez aussi.
Il reste plus grand monde.
Oui, c'est ça. Et en fait, même si le deal avec Quantum se fait, il reste quasiment plus que Maldonado ou un jeune pilote.
Ouais, parce que bon, Kovalainen au Brésil, il a pas du tout convaincu.
Ah non, là,
donc,
oui.
Il est pas sûr que...
Ouais, mais bon, c'était compliqué. Tu lui fais faire 10 000 km dans la voiture. Enfin, 10 000. C'est cher énormément, là. Parce que tu lui fais faire 1500 ou 3000 km de d'essai avant la saison. Je suis pas sûr qu'il se prenne une tôle comme ça.
Ouais, non, évidemment, il y a le contexte, mais c'est plus... Et encore, ça... Enfin, voilà. Tout son départ, en fait, le problème. Mais après, effectivement, avec un hiver correct, pourquoi pas. Mais de toute façon, oui, les choix sont plus...
Il va peut-être rebondir, mais chez Caterham, hein, donc rien n'est exclu pour Kovalainen.
Ouais, non, mais enfin bon...
Et donc, maintenant, sur les actualités du futur, quelle actualité aimerais-tu lire dans les prochaines semaines? Donc, hors résultat de Grand Prix, mais en même temps, il n'y a pas vraiment de Grand Prix dans les prochaines semaines.
J'aimerais que le Grand Prix de New York soit confirmé.
Ah, ça aussi, cette fois, oui, hein, c'est mal engagé.
Je sais, mais enfin, c'est vrai que l'idée de Bernie d'avoir une course sur la côte est américaine avec les Manhattan en fond sur les images, ça ferait très sympathique. Quand on voit que l'organisation de Singapour est plutôt une bonne réussite. Ça pourrait être pas mal en termes d'image aussi pour la F1 aux États-Unis et peut-être un vrai démarrage pour la F1 sol US.
De toute façon, on va bientôt savoir parce que je crois que c'est quoi, c'est le 5, le 6 décembre.
Ouais,
donc c'est que ça va être validé.
Ouais.
Ouais, ça traîne un peu ça d'ailleurs. J'ai pas souvenir qu'on a eu un calendrier annoncé si tard. On a eu une première ébauche en septembre.
Oui, cette année, c'était un peu bizarre avec le Grand Prix d'Allemagne aussi. Confirmé, pas confirmé, ça a mis un petit peu de temps.
Ouais. Mais la Corée, encore, on sait pas, l'Inde qui pourrait revenir. C'est plein d'incertitudes déjà cette future saison.
La Corée, pour moi, elle peut disparaître.
Ah oui,
non, mais elle me manquera pas, hein. On est bien d'accord. Mais là, pour le moment, elle est inscrite, mais. En attente de confirmation, quoi.
Ensuite, quelle actu, au contraire, ne souhaiterais-tu pas lire, je vais y arriver, dans les prochaines semaines, là encore.
Que Maldonado signe chez Lotus, tout simplement.
Ah, décidément.
Bah ouais. C'est logique.
Mais qu'est-ce qui t'a fait?
Je sais pas.
Il l'a croisé sur la route.
T'aimes pas les choses?
Je suis pas anti-vénézuélien ou quoi que ce soit. C'est juste que avoir passé quoi 5 ou 6 ans en GP2 pour être titré, réussir à monter en F1 grâce au pétrodollar, je pense qu'il a fait son temps, tout simplement. Il pourrait aller faire du NASCAR ou
Non, du NASCAR, ça lui correspond bien, il n'y a pas de un truc où il faut foncer dans le mur et dans les autres, c'est bien ça.
Je pense qu'on lui a trouvé une destination.
Oui, du
Mais c'est un pilote rapide, hein. Il manque juste d'intelligence pour moi.
Bah, on l'a vu dans ses accrochages l'année dernière, quand la Williams était plutôt performante sur certains circuits, il aurait pu gagner beaucoup plus de points et il manque
bah,
justement du genre.
C'est quasiment 50-50, hein. À peu près. J'avais fait les calculs l'an dernier, c'est à peu près ça. C'est ça. Plus ou moins, il aurait presque pu avoir le double de points.
Et le double de points, pour Williams, ça serait peut-être une place de gagner en plus, en fin de saison.
C'est pas négligeable, de fait.
Je crois que Lotus se bataillait pour obtenir ne serait-ce que la troisième place, et que ça lui rapportait plus... C'est quoi, 10 ou 15 millions de plus?
Ah oui, oui, c'est de cet ordre d'idée-là.
On veut être aux alentours ouais, des 10 millions...
C'est sûr que si Williams l'année dernière avait pu acquérir, bon, ça doit pas être dans le même ordre de grandeur pour les places plus basses, mais c'est toujours un joli bonus.
Bah, c'est proportionnel, donc oui, on peut imaginer facilement 3-4 millions, je sais pas combien c'est, ne serait-ce que pour la dixième, parce que là ça s'est posé avec 4, entre 4 et Ramé aussi.
Le problème qu'ont eu Williams avec Maldonado, c'est que c'était un peu lui. Il n'y avait pas de pilote leader à côté de Maldonado, ce qui fait que c'était, ce qui fait qu'il développe. Enfin, son argent ne servait pas à développer une voiture que pouvait utiliser un pilote comme le fera probablement Massa l'année prochaine. Du coup,
c'était
les 30 millions.
Cette année, hein, donc,
Voilà. Et du coup, les 30 ou 35 millions qu'il apportait. Bah, était contrebalancé par le fait qu'il perdait des points au passage, quoi, qu'il semait des points au passage. Tandis que s'il signe chez Lotus, et que Grosjean est confirmé, il va perdre des points, mais les 30 millions vont permettre de développer la voiture pour que Grosjean, et ça va faire que Grosjean va rattraper des points que Maldonado va perdre. Donc, quelque part, Lotus pourra plus s'y retrouver que l'a fait Williams.
Beaucoup d'espoir, je trouve, hein, parce que.
Ah, c'est.
On pense à tous les.
C'est de la théorie, c'est sûr, mais bon. Et ils vont faire avec ce qu'ils ont. Hein. Ils ont, on l'a dit tout à l'heure, ils n'ont pas forcément d'autres choix.
Non, mais moi je pense aussi que s'ils prennent Maldonado, ce sera effectivement pour l'argent, et que s'il y a un pilote à favoriser, ce sera Grosjean.
Oh oui.
Surtout avec la fin de saison qu'il a fait ici, je pense qu'il a gagné des points en piste aussi auprès de l'équipe. Donc clairement, ce sera lui qui sera d'abord parce qu'il est là depuis plus longtemps, donc forcément il aura un petit avantage. On l'a vu avec Rosberg chez Mercedes par rapport à Hamilton. Donc je crois que l'écurie aura tendance à favoriser Grosjean par rapport à Maldonado.
Oui, il sera le leader naturel, hein. Y a pas de souci. Hein.
Oui, je pense qu'il aura pas trop de mal par rapport à Maldonado parce que. Enfin...
Et ça empêche pas de Maldonado de faire un ou deux coups d'éclat à l'occasion, quoi.
Oui, c'est jamais.
Non, parce qu'il est rapide. Il a déjà fait des courses. Moins Singapour 2012, c'est une course pour moi référence pour Maldonado. Une course où il est rapide, performant. Intelligent, il attend que les choses se passent, il force pas le passage. Je crois qu'il est pas bien récompensé parce qu'il abandonne en fin de course. Mais voilà, c'est la course de référence de Maldonado. Comme quoi, il peut le faire de temps en temps, il faudrait qu'il le fasse plus souvent. Plus rapide, il l'est, hein, on le sait.
C'est-à-dire la course de Singapour comme à sa course référence et pas sa victoire à Barcelone.
Non parce,
non, parce que sa course de Barcelone, il part devant, il finit devant.
Bah après, voilà,
il faut le
faire quand
même.
On est
d'accord. Mais à Singapour, c'est quand même un circuit exigeant, même si je suis pas fan, mais ça reste un circuit compliqué, dans des conditions...
C'est difficile physiquement.
De pistes compliquées, dans le trafic. Donc pour moi, c'est une course, il a été nickel sur celle-là. Il a été nickel à Barcelone, mais il a été un peu plus tranquille.
Quoi qu'à Barcelone, il y a un des arrêts au stand où il ressort juste derrière Alonso, il doit quand même le dépasser en piste. Bah, c'est tout pour l'heure de gloire. On passe... Enfin, vas-y Shinji, à toi.
Oui, on passe donc à la course... Et on commence bien évidemment, comme d'habitude, par les qualifications. Et parmi les deux guignols de la semaine, eh bien, on retrouve Pasteur, qui est fini 17e, devant Esteban Gutiérrez. J'ai envie de dire, c'est assez classique.
Normal.
Voilà, de leur part. Hein.
Oui, c'est très classique.
On finit en...
Pas de sabotage chez Williams.
Oui.
Chez Sauber, on sait pas, peut-être. Non, classique. Enfin, c'est pas très surprenant. On a eu peur un peu pour Vergne. À un moment donné, on a quand même cru qu'il pourrait être le, un parmi les...
Vergne, il s'est vraiment arraché hein, pour quitter sa Q1, ouais. Oui, tout à fait.
Ouais, il a ouais. Amélioré son chrono alors que la piste était plus mouillée que... Enfin, on le voit quand on voit l'évolution des temps. Il y a, je crois, 21 personnes qui font leur temps dans les 5 premières minutes, 6-7 premières minutes. Et ils sont que 3 à améliorer à la fin, dont Vergne. Donc, il a fallu qu'il aille la chercher, ça c'est clair.
Sinon, hein, pour les petites équipes, hein, les deux Caterham devant les deux Marussia, avec Pic devant Vanguard et Bianchi devant Shilton. En Q2, 16e Adrian Sutil, 15e Jenson Button, 14e Perez, 13e Bottas, 12e Di Resta et 11e Kovalainen.
Bah, Kovalainen, ça s'est joué à pas beaucoup. Hein.
Qui ne s'est pas donné d'excuses hein, sur le coup. Il a dit « Non, j'ai pas été assez rapide. »
C'était déjà bien qu'il aille en Q3 à Austin. Là, bon, ça s'est pas joué. On peut pas être très sévère avec Kovalainen. Moi, je suis pas du tout d'accord avec Villeneuve quand il a pas arrêté de le tacler sur les deux week-ends.
Ouais, c'est bon. Quand il est revenu chez Renault, il a pas beaucoup fait mieux. Hein, donc,
Il a pas marqué un seul point. Il a fait 10e, 10e et 11e, je crois.
Donc, avec une voiture champion du monde. Hein. Pas comparativement, il était dans une meilleure voiture que n'est la Lotus cette année.
Je suis pas tout à fait d'accord.
Oui, mais voilà.
C'était la Renault de 2004. Elle était pas encore championne du monde.
Ouais, mais voilà, c'est quand même, c'est les prémices quand même de.
Ouais.
Après,
ouais.
Bon, voilà, mais au moins on peut dire qu'il avait au moins une aussi bonne voiture que Kovalainen hasta pour ces deux courses.
Oui.
Voilà.
Là, je te suis davantage.
Non, sinon sur la Q2, rien d'autre à dire.
Les McLaren sont pas passés, hein.
En Q2, non, en 14 et 15.
Ouais, c'est dommage.
Saison.
Et donc la Q3, qui a commencé avec 40 minutes de retard, et je me souviens ça devait commencer à 50, ça a repris à 30.
Et qui, comme d'habitude, a repris alors que les conditions étaient déjà assez bonnes pour les pneus intermédiaires.
Oui, je crois là, pour coup, c'est Villeneuve qui l'a dit, que s'ils étaient partis à l'heure, il y aurait eu au moins 5-6 minutes où ils auraient pu rouler. Donc au moins faire des temps.
Oui.
Et donc en Q3, 10e Nico Hülkenberg, 9e Felipe Massa, 8e Jean-Éric Vergne, ce qui prouve qu'il avait bien raison de se déchirer en Q1 pour passer. Derrière son coéquipier, Daniel Ricciardo 7e, Romain Grosjean à la 6e place, Lewis Hamilton 5, Mark Webber 4, Fernando Alonso 3e, ça c'est quand même pas si... Ça fait longtemps, je crois, qu'on n'a pas vu Fernando Alonso 3e.
Depuis Bahreïn, non, c'est pas ça? Bah oui, un bail, oui, ça c'est sûr. Une
bonne
demi-saison.
Et donc en première ligne, Nico Rosberg, deuxième, et encore une fois, comme d'habitude, Sébastien Vettel.
Et pas qu'un peu.
Oui. Alors là, il met 6 dixièmes à Nico Rosberg.
À deux petites surprises dans la Q3 quand même. Déjà que Ricciardo soit devant Vergne sur le mouillé, enfin c'est.
Oui.
C'était une vraie surprise.
Ouais. Et puis Grosjean 6e, enfin on s'y attendait pas, on l'aurait vu plus haut quoi. Déjà en Q2 il fait le meilleur temps. Puis là en plus il tente un pari, c'est-à-dire qu'il finit pas son tour en pneu pluie. Au lieu d'améliorer, il rentre directement mettre les intermédiaires. J'ai entendu tout à l'heure parce que Ben a tweeté qu'il y avait un podcast Renault Sport et que je savais pas. Du coup, j'ai écouté un petit peu et apparemment, il y a eu un petit problème à ce moment-là, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé les couvertures chauffantes, et ils auraient pas dû. Et du coup, c'était tellement compliqué de les remettre et tout ça. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit hein, sur le podcast, qu'ils ont décidé de le renvoyer en piste tout de suite au lieu d'avoir des pneus bien chauds. Donc, du coup, ça lui a coûté un petit peu par la suite.
Il y a ça, en plus, sur le dernier run, parce qu'on a vu que ça a amélioré à la toute fin, il lui a manqué 10-15 secondes, c'est-à-dire que il a été le premier sous le drapeau Adami, entre guillemets. Est-ce que s'il n'avait pas pu faire ne serait-ce qu'un tour de plus, il aurait pas pu améliorer un peu plus et au moins mieux se placer? Mais ouais. Il a manqué, voilà, peut-être 10-15 secondes, pas plus. La pole de Vettel est la 45e de sa carrière, la 57e pour Red Bull, la 213e pole position pour un moteur Renault à une moyenne de 179,378 km/h. À noter que sur la grille, une seule pénalité, Sergio Perez, qui a été rétrogradé de 5 places pour changement de boîte de vitesse, donc de la 14e, il est parti 19e.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ton accident. Beaucoup lui sont tombés un peu dessus parce que oui, il faut pas mettre les roues sur le vibreur quand il pleut, il faut lever le pied. Même c'est que tout le monde le fait. Lui, il subit un gros survirage qui du coup le remet sur le trottoir et du coup il lève pas donc il part. Le truc c'est que quand on regarde le tour de Vettel, il fait la même chose et il part pas quoi. Il file vers le virage suivant donc c'est. Il a attaqué, il a pris des risques. Bon, bah c'est pas passé, c'est tombé sur lui, mais ça aurait pu tomber sur beaucoup de gens. J'ai souvenir qu'en 2011, alors c'était un essai libre, mais celui qui est le plus sorti en essai libre sous la pluie en 2011, c'est Vettel. Il est sorti au moins 2 ou 3 fois. Il y a vraiment des gros accidents, quoi. Donc.
Ouais, puis je vois pas pourquoi. Enfin, quoi, faut lui tomber dessus. Enfin bon, il fait une erreur, il rentre dans aucune autre voiture. Voilà, il fait l'erreur tout seul, comme un grand entre guillemets. Non. Ça me paraît pas justifié, bon.
Puis sa relation, enfin sa position actuelle qui fait que... La situation actuelle, pardon, fait qu'on lui est tombé encore plus facilement dessus. On s'est dit, il s'en fout, il sera plus là l'année prochaine.
Oui, alors que pour le coup, je suis même pas sûr qu'il s'en foute, hein. C'est juste... Voilà, il a fait une erreur, ça peut arriver, c'est arrivé sur lui, ça aurait pu arriver à n'importe qui.
Il n'en fait pas.
Très bien, messieurs, nous allons passer au top 10.
Le service après-vente de la F1 vous présente le top 10 de la course.
Et donc, cette semaine, ne ferons pas partie du dernier top 10 de l'année. Pastor Maldonado, qui n'a marqué que 8 petits points. Il est donc à la 22e place. Van der Gard, 22 points. Di Resta, 27 points. Derrière Charles Pic, qui est à 30 points. Kovalainen ne marque que 31 points. Il est à la 18e place. Sutil marque 32 points. Gutiérrez, 38. Max Chilton, 45 points. Jean-Éric Vergne est 14e avec 79 points. Valtteri Bottas est 13e avec 117 points. Daniel Ricciardo a marqué 142 points et Mister Eleven cette semaine est Jules Bianchi avec 153 points. Alors à noter, alors, moi j'ai donné un petit point à Chilton, que bon c'était la fin de saison et puis il y a eu quand même son record, alors c'est pas le record le plus marquant de l'histoire de la F1 mais voilà, ils sont pas nombreux hein, à avoir fait ça, avoir réussi à faire une saison complète sans abandon et c'est le premier rookie à avoir fait ça. Donc j'ai voulu marquer le coup en lui donnant un point. Sinon, Gus Gus et Ben, vous avez donné chacun un point à Jules Bianchi.
Bah, il termine premier des 100 grades, quoi.
Mm-hmm.
Voilà, il part quand même derrière les deux Caterham, il finit devant. Donc, pas mal.
Et c'est la cinquième fois que ça lui arrive cette année. Donc voilà, c'est pas anodin. Mm. Et donc c'est un peu pour célébrer. Pour marquer le coup de la dixième place de Marussia.
Mm.
Même si on a lu aujourd'hui sur Autosport que c'est pas si avantageux financièrement que ça à court terme quoi. Il va falloir qu'il reproduise cette performance dans la prochaine ou les deux prochaines années pour que vraiment ça paye.
Sinon, nous avons tous les quatre donné des points à Daniel Ricciardo, 2 points pour moi comme Destino, 1 point Destino, 4 points Ben et 2 points Gus Gus.
Bah, il fait une bonne qualif et il se défend pas mal en course. Par contraste avec Vergne. Qui est derrière en qualif, mais juste derrière, hein, quand on regarde les chronos, l'écart est vraiment petit, qui se loupe au départ, je pense, qui a du mal dans son premier relais, et qui finit 15e, quoi.
Le problème de Vergne, pour en parler rapidement, c'est la gestion des pneus. C'est très souvent, j'ai regardé que dans cette fin de saison, c'était le premier à rentrer au stand. Là, il rentre au 10e et il est en 3 arrêts, alors que ils sont quasiment tous les autres, à part Chilton qui rentre à 3 tours de la fin et Sutil, ils sont tous en 2 arrêts. Vergne, apparemment, ça a un problème avec la gestion des pneus. Donc lui, les pneus plus durs en 2014, ça doit lui convenir.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Autrement,
il est pas là. Pour vous, au niveau de la saison qui s'est passée, Red Bull a eu raison de prendre Daniel et pas Jean-Éric.
Bah, Vergne n'y a plus marqué de points, plus le Canada.
Mm-hmm.
C'est un peu révélateur.
Après, on s'attendait pas forcément à ça. Je sais plus exactement à quel moment s'est fait le choix. C'était vers la fin de l'été. Après ouais. le Canada, oui. il y a eu 3-4 courses où j'ai pas souvenir que Ricciardo ait fait des performances extraordinaires. C'est compliqué à dire. À l'endroit où, au moment où ils ont fait le choix, et il fallait un peu assurer leurs arrières parce que Raikkonen apparemment c'était mort. Mm. Ils n'avaient pas forcément d'autres solutions à prendre, mais donc la différence entre Vergne et Ricciardo en ce moment, c'est apparemment ce qui a guidé le choix, c'était Ricciardo a un peu plus d'expérience que Vergne, et c'était pas forcément fermer la porte à Vergne. Maintenant Vergne en cette fin de saison, il a franchement rien montré d'extraordinaire. Je veux bien croire qu'il n'y ait pas eu de réussite, ça c'est une certitude. Mais ce qui en témoigne, c'est que là, une occasion pour lui de briller un qualif, et Ricardo est au même niveau, et un petit peu devant, quoi. Même dans sa spécialité, il est plus forcément...
Non, là où Ricardo marque des points, c'est que il a pas trop mal géré le fait d'être annoncé chez Red Bull. Par rapport à Perez l'an dernier, qui, enfin, il a été annoncé chez McLaren, et pour la plus vue, Ricciardo, il a continué son petit bonhomme de chemin, ni plus ni moins, j'ai envie de dire. Donc, c'est vrai qu'au moment du choix, on pouvait discuter. Aujourd'hui, rien n'assure que Ricciardo est le bon choix. Mais par rapport à Vergne, en cette fin de saison, oui, entre les deux, oui. D'ailleurs, Vergne, c'est, effectivement, Gus parlait des pneus durs, ça peut être une bonne chose pour lui. Donc derrière Kvyat, à mon avis, va quand même être un peu à surveiller. Sur ces deux séances d'essai, il a quand même pas été ridicule. Maintenant, séance d'essai course... c'est pas la même chose, hein, Kovalainen peut le dire. Mais quand même, le garçon marque des points et il faudra quand même le surveiller de près. Et Vergne devra de toute façon être devant lui, parce que s'il se fait mener, ne fût-ce qu'un petit peu par Daniel.
Ah bah c'est foutu.
Kvyat, ouais. Là c'est foutu. Je suis même pas sûr qu'il finisse la saison dans ces conditions-là. Hein. Sincèrement. Je pense qu'à l'été, si Kvyat ou Kvyat, je sais pas comment on dit,
Kvyat.
passe devant,
comme Fiat,
il peut sauter quoi.
Ouais. Enfin, personnellement, mon avis sur le duo de Toro Rosso, il n'est ni meilleur ni moins beau que le duo précédent qui était Buemi et Alguersuari.
Bah, il y a le même défaut, c'est-à-dire qu'aucun des deux n'atomise l'autre.
Ouais.
La différence, c'est qu'ici, Red Bull avait vraiment besoin d'un pilote.
On aurait pu tenter un coup avec Romain Grosjean.
Ouais, mais c'est pareil, au moment où ils ont eu à choisir, Grosjean n'avait pas encore explosé comme il l'a fait dans les 6-7 dernières courses.
Et puis en plus, ça aurait été complètement désavoué la filière Red Bull.
Voilà, c'est ça, il faut justifier la filière Red Bull. C'est comme McLaren avec Magnussen. Il faut aussi, à un moment donné, prendre une décision et justifier la politique jeune pilote qu'il y a derrière.
En même temps, s'ils ont considéré prendre Raikkonen, c'était la même chose. Hein,
désolé. Oui,
à mon avis,
oui,
ça les dérangeait pas s'ils avaient un grand nom, Raikkonen. Alonso, apparemment, ça s'est pas fait, que lui a tenté l'approche, mais...
Notons que le premier du classement a marqué 2116 points. Dixième,
donc.
Avec un point, il a marqué 291 points, c'est Romain Grosjean. Aucun de nous ne lui a donné de points.
Non, en quel honneur?
Il manquerait plus que ça.
Je sais pas, c'est
pour la course, c'est peut-être deux tours et puis s'en va. C'est pas sa faute.
C'est une note artistique, peut-être.
vrai qu'on voit bien le flux d'air des échappements. On a bien vu l'effet Coanda.
Voilà, ça c'est joli.
Voilà. Gros danger quand même pour les gens qui ont suivi. On a vu tout le monde à sauter sur les freins derrière parce que aucune visibilité dans cet endroit. On voit ce que ça donne sous la pluie. Alors quand c'est vraiment un nuage blanc dense, c'est très dangereux.
Ce qui était étonnant aussi, c'est cette image où on le voit courir le long de la piste. Voilà, il y a personne. Tout seul, on se dit bah merde, attends, où est-ce qu'il est? Est-ce que les voitures passent pas à côté?
Il a pas pris de pénalité pour ça.
Non, je crois pas, non.
Non, il aurait pu parce qu'il a traversé la ligne blanche. Et donc
c'est assez hallucinant comme image.
Ouais.
Donc là où il s'arrête, il y a une échappatoire, donc il peut rentrer tranquillement
au
stand.
Bah c'est ça, oui, voilà, je comprends pas.
Le problème des stands, d'Interlagos, c'est que c'est très serré à cet endroit. Il y a une espèce de descente et tu arrives sur l'autre bout du circuit. Alors est-ce que ça communique avec le paddock? Je suis vraiment pas sûr que ce soit le cas.
Ça se trouve, quelqu'un avait simplement fermé la porte, comme Raikkonen l'an dernier, il croyait que c'était ouvert.
Oui, donc une casse de moteur Renault qui est apparemment une casse vraiment mécanique, quoi. C'est dans un des cylindres que ça, entre un piston et une bielle que ça a vraiment cassé.
Voilà, ils ont pété le dernier V8.
Voilà.
Ferrari, me semble, n'a pas manqué de le noter dans ses communiqués de presse d'après match. Après match, les grands pays.
Oui, ils s'accrochent à ce qu'ils peuvent, c'est... À la 9e place, il a marqué 491 points. Je lui ai pas donné de points. En fait, il y a que Destino qui lui a donné des points, c'est Lewis Hamilton.
C'est très difficile de faire un top 10 et
on confirme.
Oui, oui.
Je l'ai fait pour avoir réussi à ramener la voiture par rapport à l'année dernière. L'année dernière, je ne l'avais pas ramené. Donc,
est-ce que c'est de la pitié? Est-ce que c'est au classement?
Ouais, parce que.
À force, on s'y connaît, hein, comment on fait les top 10. C'est
un peu des deux.
L'année dernière, il n'a pas réussi à ramener la voiture parce que Hülkenberg l'en avait un petit peu empêché, on va dire.
Mais Hamilton, il est en difficulté tout le week-end. Dès les premiers essais libres, il y a un truc qui ne va pas sur sa voiture. Il n'est pas content de son comportement. Et je pense que ça le poursuit tout le week-end. Le vendredi, il est lui-même étonné de pas être plus performant sous la pluie, parce que d'habitude, c'est quand même un des pilotes qui tire son épingle du jeu. Il fait pas forcément un mauvais Grand Prix. Y a l'incident avec Bottas, qui pour moi est un fait de course. Enfin, c'est pour le même prix, ça passe et... Bon, tout le monde dit c'est bien. C'est quand même 9e avec une pénalité, c'est quand même pas si dégueulasse que ça. Je l'ai pas mis non plus dans mon top 10, parce que... Y a que 10 places dans un top 10.
Bah oui.
On retiendra cette citation.
Ouais, grande citation. Hein. donc voilà, mais c'est vrai qu'il est un peu... Et puis Rosberg fait un peu mieux de nouveau, je dis pas de bêtises. Hein. Ouais. Donc, que ce soit en qualif ou en course, Rosberg est devant, donc c'est aussi pour ça qu'il est pas moi dans mon top 10. Il démérite pas forcément, mais il est en portrait.
Pour moi, très clairement, ça témoigne du fait que la Mercedes s'est pas adaptée à lui. C'est sa première année, il a pas eu trop de poids sur le développement parce que Rosberg est là depuis 3-4 ans. C'est plutôt normal. Et pourtant, il finit finalement devant Rosberg qui a eu quelques problèmes techniques de plus qu'Hamilton. Voilà. Bon, ça sera à surveiller l'année prochaine. Si l'année prochaine il continue à avoir des soucis, ce sera plus problématique. Là, c'est plutôt normal. Mais
oui, bah oui. D'ailleurs, Rosberg en début de saison l'avait dit, on m'écoute beaucoup plus maintenant. Pour le développement dans les choix de réglage, etc. De fait, c'était lui le pilote référence puisqu'il connaît l'écurie, etc. Donc ici l'hiver, Hamilton va avoir le temps de un peu mettre là aussi de participer au développement de la voiture et vraiment de la mettre un peu à sa sauce.
Après sur la...
D'ailleurs, il veut bien bosser comme un rookie. Hein. Il va se donner à fond, Lewis, hein, pendant l'hiver.
Est-ce qu'il va se donner plus qu'Alonso? Parce qu'Alonso, apparemment, va travailler pendant encore un mois à l'usine. On sent que Raikkonen arrive. Et qu'il faut essayer de prendre...
On ne sait pas où il est, mais il arrive.
Voilà. On sent qu'il faut essayer de prendre le plus d'avantages avant qu'il arrive. Donc,
ouais. Autant l'an dernier, il s'est offert un peu d'avance. Ouais. Alonso, même les premiers essais, il n'y était pas. Autant là...
C'est bien.
Mais d'ailleurs, aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué, enfin, dans les actus de mardi, tout le monde, c'est la grande foire à l'optimisme, hein. Ferrari, ils sont hyper confiants, McLaren, on va rebondir, Red Bull, on a pris de l'avance sur les autres parce qu'on a deux grands prix en plus où on peut vraiment travailler sur la voiture de l'an prochain parce qu'on a déjà gagné le titre, c'est optimisme général, hein.
ça y est, hein, la saison est terminée.
Il y en a qui vont pleurer à Melbourne, hein.
Ah bah.
Ensuite, c'est Nico Hülkenberg que l'on trouve à la 8e place. Il a marqué 628 points. J'ai donné 4 points comme Gus, Ben 2 points, Destino 6 points.
Ah, comme j'ai dit précédemment dans l'émission, c'est un peu mon chouchou. J'explique que je lui ai donné un peu plus de points que vous.
Au classement, plutôt 8e. Il fait pas une course dégueulasse, mais on l'a pas beaucoup vu. Et puis, comparativement aux dernières performances de la Sauber. C'est un peu en deçà, mais c'est pas honteux.
C'est ce que j'allais dire, c'est surtout que voilà, il a fait une bonne course, mais c'est vrai que après les excellentes courses qu'il nous a faites, ça paraissait un petit peu moins bien. Mais ça restait très bien.
J'ai rien à ajouter.
Non,
vous avez tout dit.
Puis il faut répéter ce qu'on a dit en tout début d'émission, c'est la spécificité de ce week-end qui redistribue les cartes, dans ce sens que les pilotes, tout le monde a découvert la piste, l'usure des pneus, etc. Pendant la course, et qu'il a fallu plus improviser que d'habitude.
Oui, c'était tellement bizarre ce temps.
Oh. Ouais.
Et bien, dans ce cas-là, passons directement à la 7e place, il a marqué 714 points, c'est Nico Rosberg. Donc, alors, à part Destino qui lui a donné 10 points, on lui a tous donné 6 points.
On l'a vu au départ, et puis tout. Il se loupe un peu en qualif, il le dit, il a plus assez de kers pour la monter, mais même sans ça, il fait pas la pole, hein. On récupère pas 6 dixièmes sur la ligne droite.
Non,
enfin,
non,
ligne
quand
droite,
même pas, ouais.
Ça m'étonnerait. Bon départ de Rosberg. Et
ça n'a
pas
de
illusion, quoi. Après un demi-tour, tu sais déjà que l'autre va le passer. Et après, il ne fait plus que reculer. Cinquième place, je pense. Il aurait peut-être pu faire quatrième. Faire mieux que la McLaren, ça aurait peut-être pu être possible. Mais globalement, il finit la course là où la Mercedes doit terminer, quoi.
C'est ça qui est relativement décevant, c'est que Button soit devant. Alors, avec une McLaren dont on connaît les problèmes cette année.
Oui.
À croire que la Mercedes a vraiment besoin du vendredi et du samedi pour bien régler sa voiture, pour faire des bonnes courses. Alors que chez McLaren, on connaît mieux son package et donc on peut arriver directement avec des réglages mieux adapté.
Juste pour expliquer le positionnement de Rosberg dans mon top 10, c'est que j'ai dégradé d'autres pilotes et du coup c'est pour ça qu'il est remonté aussi haut. Aussi.
Rosberg, il gagnerait à avoir une copine aussi jolie qu'utile pour qu'on le voit plus, parce que le réalisateur, à chaque fois qu'il doit prier pour qu'il se passe un truc pour Stutil, juste pour montrer derrière le plan avec sa copine.
Non mais le réalisateur de la FOM, il est en manque.
C'est incroyable.
Ou alors c'est Ben qui réalise, et il nous l'a jamais dit.
Non, à un moment donné de la saison, on voyait beaucoup la copine de Rosberg.
Oui. Et puis il a pas annoncé qu'il allait...
d'ailleurs, mais...
Puis il a pas annoncé qu'il allait se marier avec elle, et comme par hasard, on la voyait plus.
Oui, mais je pense que le réalisateur a découvert Madame Sutil juste après.
Mais oui.
Et c'est vrai qu'on la voit beaucoup.
Quand il y avait Nicole, on voyait Nicole. Un pervers réalisateur, je te jure.
C'est ça. De temps en temps, on aperçoit Madame Niresta aussi, mais...
Oui, un petit peu de Madame Alonso.
Ouais.
Mademoiselle.
Mais globalement, il aime bien les blondes, le réalisateur.
C'est vrai aussi.
Madame Alonso qui avait apparemment pris le soleil. Je sais pas si vous avez trouvé qu'elle avait un teint très... très coloré, mais
je remarque pas ce genre de truc.
Non, moi, elle m'a semblé plus bronzée que d'habitude, mais bon. C'est l'info dont on se fout.
Voilà, toutes ces précisions étaient très importantes, hein, dans ce...
Ben oui, voilà, c'est pour te dire que j'observe tout, moi.
Oh oui. Allez, à la sixième place. C'est un pilote McLaren. Il a marqué 739 points. C'est Sergio Pérez.
Comme quoi, quand il y a des baquets à disposition, on fait de bonnes courses.
Oui.
Alors, je sais pas s'il prend un bon départ, a priori, pour finir aussi haut, ouais. Mais effectivement, derrière, il assure, quoi.
Partir une belle 19e,
course. Ouais, une belle course.
Très belle course. Il termine malheureusement pour lui, enfin malheureusement.
Bah, 6e.
Derrière Button. 6e, c'est quand même pas mal.
Vu qu'il partait 19e, c'est quand même pas mal, oui.
Une très bonne course.
Oui, c'est vrai qu'il partait 19e, autant pour moi. J'avais omis ce détail. C'est Madame Alonso qui m'a perturbé. Donc oui, effectivement, en partant 19e avec sa pénalité, 10e, c'est une très belle course. Il avait déjà fait une belle course à Austin. Là, il récidive.
Et il remonte assez vite, ce que je vois sur le tour par tour. Déjà, au premier tour, il est 16e. Et quasiment... il rentre dans les points dès le 13e tour. Sur 71, pardon. Donc oui, très bon début. Puis ensuite, voilà, il gagne moins de place, forcément... Mais globalement, c'est une très belle course des McLaren.
Au problème de Massa et d'Hamilton.
Oui.
Mais bon, 8e, ça aurait été un bon résultat, quoi.
Oui. Ah oui, il y a quand même un très bon résultat d'ensemble des McLaren. Hein.
Bah, c'est leur meilleur résultat de l'année, hein, 20 points.
Ah oui.
la 4e place de Button, c'est le meilleur résultat
de McLaren cette année.
De McLaren, hein.
Oui.
C'est fou.
Avant, c'était deux 5e places. Et effectivement, très belle course quand tu prends en compte leurs qualifs qui sont complètement ratés. Ils sont 14 et 15 sur la grille, après les qualifs, plus la pénalité de Perez. Donc, ils sont nulle part en qualif. On se dit, oula. Et là, étonnamment sur le sec, en plus, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu. Voilà. Espérons que ce soit, de bon augure pour l'an prochain. On se souviendra quand même qu'en 2012 aussi, la McLaren était très performante à Interlagos. Donc, à voir.
Il faut dire que contrairement à d'autres, notamment les Mercedes, ils ont pu faire deux relais en médium. Button fait dur, médium, médium, Perez, médium, médium, dur. Alors que chez les Mercedes, ils ont été obligés, du fait de leur dégradation des pneus légendaires, on va dire,
oui,
faire deux relais en quoi. Ils font médium, dur, dur, les deux. Donc c'est tout de suite un avantage quand tu peux te permettre de mettre des plus de temps pendant plus longtemps.
Et Button qui est le seul avec Gutiérrez à partir en dur.
Oui, c'est vrai, oui.
Et d'ailleurs, c'est un joli choix parce que les deux remontent au départ comme des balles.
Ouais, parce que Gutiérrez, il remonte très vite aussi, effectivement, je sais plus, parce qu'il part 18e, il est très très vite aussi.
Par contre, je pense que Gutiérrez, il les a flingués, c'est dur, hein, parce que... il a remonté, puis il est redescendu assez rapidement aussi.
Oui, parce que je vois au 9e tour, il est 11e. En même temps, il partait. Attends, il partait de quelle place? Ouais, 17ème. Donc, il fait un très bon premier tour, parce que à la fin du premier tour, il est déjà 13ème. Puis il monte 11. Et après, ouais, il stagne un peu ouais, autour de cette place-là.
Il est pas rentré dans les points, même pas?
Non, non, même au bénéfice des arrêts, il a plafonné à la 11ème place.
D'accord.
Alors, Perez, rien à dire de particulier. Sinon, on peut directement enchaîner sur Button, vous l'avez déjà évoqué, qui lui a fini 5ème du classement. Avec 1360 points, donc avec un bel écart avec son coéquipier.
Quelque part, c'est relativement étrange qu'il soit aussi haut alors qu'il n'y a pas eu une seule goutte. Si, il y a eu quelques gouttes, mais elles n'ont pas mouillé la piste.
C'était une course sur le sec.
Oui.
C'est-à-dire que la piste était entre guillemets sur le sec, et le ciel, lui, par contre, il était pas du tout sec.
Ouais, c'est relativement étrange qu'il soit à 4ème, alors que justement, il n'y a pas eu les conditions qu'il aime tant, où c'est compliqué de choisir, quoi, comme l'année dernière.
Avec des vraies averses qui arrivent, et où tu peux faire un choix de pneus.
Ouais.
Parce qu'à se demander s'ils n'avaient pas compromis la qualification en ayant un réglage un peu plus sec que les autres concurrents.
Peut-être.
Je crois pas, oui.
Peut-être.
C'est vrai que c'est une théorie qui se tient. Ouais. Ouais.
Parce que...
Ah si oui, effectivement, ils remontent tous les deux. Donc
oui, les deux font de très, très mauvaises qualifs et ils font une très bonne course. Alors que tout le monde attendait la pluie, est-ce que oui, ils ont peut-être fait un pari. Oui.
Là où par exemple, effectivement, Caterham, pour essayer d'avoir la 10ème place s'il pleut, avait tout misé sous la pluie. Quoi.
Verne qui avait tout misé sur la pluie aussi.
Mais du coup, ça s'est pas beaucoup vu en qualif, parce que Ricciardo, s'il a moins visé la pluie, ben il était pourtant davantage devant.
Moi, j'ai mis Button 3ème, moi. Je lui ai donné le podium que McLaren n'a pas eu cette année.
Oui, c'est vrai. Alors que nous, tous les quatre, enfin les trois autres, on l'a mis 4ème.
J'ai hésité, parce que, en fait, dans mon souvenir, Weber, avec lequel j'ai hésité, a fini 3ème de la course. Je sais absolument pas pourquoi, peut-être une volonté, ou je sais pas. Mais dans mon souvenir, il avait fini 3ème, c'est quand même pas une performance très très bonne avec Red Bull, et du coup, il m'a dit, mais finalement, j'ai penché vers Weber, et après, j'ai vu, oui, donc, Button, bonne course, hein.
C'est une course à la Button, mais sur le sec.
Le demi-sec, c'est...
Ouais, vraiment. C'était pour le champagne,
ouais.
Ça.
Mais si ça se trouve, c'est le choix de mettre les durs. Ça fait partie de cette stratégie de se flair un peu de Button avec les conditions.
Mmh. Ouais, mais regarde, Perez n'est pas parti en dur et il fait quand même une très bonne course aussi.
Mais est-ce que c'est pas McLaren là qui se dit on va pas mettre tous nos œufs dans le même panier? C'est-à-dire qu'on fait partir Button avec les durs, mais on va. Perez qui part un peu plus loin, on va le mettre en médium. Et comme ça, on a. Ah, si il pleut, si on s'est trompé sur un des
oui,
deux,
voilà.
On se trompe avec un des deux. On se trompe pas avec les deux voitures.
Elle est à la 4ème place, il a marqué 1698 points. C'est un pilote Ferrari, ou plutôt, c'était un pilote Ferrari, c'est Felipe Massa. Alors nous, on l'a un peu moins bien classé, hein, parce que alors Gus Gus lui a donné 10 points, moi et Ben, on lui a donné 8 points, Destino, tu lui as donné 2 points.
Ah, carrément.
Moi, j'ai été emmerdé par Massa.
C'est compliqué de juger Massa, oui, je trouve,
ouais,
cette semaine.
Parce que, oui, si tu prends sa qualif 9ème, c'est sa plus mauvaise qualif à Interlagos, je pense. 7ème, en fait, aussi bien pour Massa que pour Weber, dont on parlera plus tard, c'est le problème, c'est la fin de quelque chose. Weber, c'est la fin de sa carrière, Massa, c'est la fin de son histoire avec Ferrari. Et voilà, au moment de juger, forcément, t'as ces facteurs-là qui rentrent en ligne de compte, et tu me dis, allez, c'est quand même dommage. 7ème, c'est pas forcément exceptionnel. Il y a sa pénalité.
Ah, ça a beaucoup fait jaser, ça.
Qui est étrange, mais bon, en même temps, c'est les règles, les commissaires ont rappelé avant la course.
Et apparemment, il a eu des avertissements avant.
Oui.
Oui, et puis, bien dans l'absolu, tu te dis sans sa pénalité, il est 4 ou 5, 3, si il est 4, vu qu'on croit Alonso quand il dit qu'il l'aurait laissé passer.
Ah, la bonne blague.
Bon, voilà, donc c'est dans l'absolu, si tu retires sa pénalité, il fait une belle course. Il fait un très très bon départ, puisqu'il est, je pense, il est quand même 5ème, je crois, après le premier virage, il est... voilà. Il se montre tout de suite, et puis belle course. Or, sans sa pénalité, il est plus haut forcément dans le classement, et c'est une belle course. Sa pénalité, Alvaro Calvo, elle est bonne, discutable, il est effectivement prévenu.
Après, c'est bizarre, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais pris la tête au pilote pour ça. Et là, c'est...
Mais non.
Et le pire, c'est qu'on ne le fera plus, puisque normalement, l'an prochain, ça ne sera plus la ligne des stands.
Oui.
Ouais.
Non, mais ça rentre dans le rappel qui avait été fait des limites de la course, des limites du circuit. qui montre qu'aujourd'hui, on ne peut plus vraiment, enfin, la FIA a fermé toute possibilité de sortir des limites du circuit de la ligne blanche. Et du coup, à partir du moment où c'est rappelé le matin même, ou même, parce que la ligne des stands de la ligne blanche, je sais pas si vous voyez au moment où la piste se sépare effectivement de la ligne des stands, ils ont mis un coup de peinture noire sur la ligne blanche pour vraiment signifier l'endroit à partir duquel la piste se sépare de la ligne des stands. Donc à partir du moment où la FIA fait un petit peu ce genre d'effort pour la limite vraiment visuellement visible des pilotes, qu'elle leur met des avertissements, etc. Malheureusement, Massa conteste pas sa pénalité. Lui dit qu'il a vu d'autres pilotes faire. Pourquoi pas? Si ça se trouve, d'autres pilotes ont été avertis. Seulement, lui, il l'a fait une deuxième ou une troisième fois, et c'est pour ça qu'il est pénalisé. Et malheureusement, il peut s'en prendre qu'à lui-même.
À lui-même.
Parce que Weber, enfin, après la pénalité de Massa, quelques tours après, son ingénieur lui rappelle aussi, Marc, fais attention, la ligne des stands.
Ça a même été un rappel général. Hein. C'est à partir de ce moment-là du Grand Prix, tu vois que tout le monde prend
une belle distance
avec cette ligne des stands, avec cette ligne. Dans l'absolu, pour éviter ce genre de controverse, il faudrait avoir un peu comme un NASCAR, un cône à cet endroit-là. Tu passes d'un côté du cône, t'es obligé d'aller dans la ligne des stands, tu passes de l'autre côté, tu restes sur la piste. Enfin, c'est
un cône ou une quille. Ouais. Ouais. Bon, ça se posera plus l'an prochain, normalement.
Ouais, mais bon, ça peut toujours se poser sur d'autres circuits.
Ça peut se poser sur d'autres circuits. Mais bon, en même temps, cette situation-là est quand même très typique d'Interlagos.
C'était forcément, t'es dans la trajectoire. Et à un moment donné, où tu plonges, tu continues. C'est un peu particulier, effectivement.
Mais pour cette histoire de trajectoire, il y a autre chose pour signifier aux pilotes que tu vas rentrer. C'est qu'au lieu de rester à l'extérieur de la piste, tu plonges tout de suite. Quelqu'un qui rentre dans les stands, finalement, la consigne à Interlagos seulement, hein, c'est justement de pas couper la ligne. On voit les pilotes qui rentrent dans les stands, ils prennent tout de suite l'intérieur de la piste. Pour que les autres soient pas surpris derrière.
Ça oui, c'est compréhensible. Qu'ils commencent pas à faire un peu des vagues à cet endroit-là, c'est normal.
Mais du coup, ça devrait être la même chose ailleurs. Je pense notamment à Barcelone ou à Nürburgring. Combien de fois on a vu des pilotes faire pareil, couper la partie assurée de la piste pour... Enfin voilà, c'est toujours pareil avec la FIA, il y a des règles sur certains circuits et d'autres pas, alors que les situations sont les mêmes. Enfin, bon.
Je serai pour le retour du bac à gravier comme en Chine, qui a planté Hamilton. je le mettrai à cet endroit-là. C'est dangereux, mais ça éviterait ce genre de polémique. Parce que là, ça serait vraiment... en dehors de la piste, et tout le monde le comprendrait dès la première incursion à l'intérieur. Je suis un peu déçu de l'architecture qu'a pris de nombreux circuits l'égide d'Herman Tilk avec ses nombreux dégagements qui font que tu peux déborder sur la piste, parfois même doubler hors piste, alors que une piste c'est de la ligne blanche à la ligne blanche, voire un petit peu sur les bordures. Mais pas au-delà.
Ouais, c'est des problèmes qui se posaient pas avant, c'est clair.
Ouais, attention, pour les dégagements asphaltés, c'est des directives plus de la FIA que des choix purement d'Herman Tilke. Pour le coup, je pense que c'est vraiment dans le cahier des charges et que lui s'y plie. Je sais plus, je crois que c'est des employés de Tilke d'ailleurs, qui disaient que les règles de la FIA sont quand même assez strictes au niveau des circuits et qu'il expliquait que c'était pour ça que beaucoup de circuits modernes étaient ennuyeux.
Après, parce que ça vaut, mais... Oui, c'est une interprétation, mais est-ce que ce n'est pas aussi Bernie qui est derrière cet appui? Quand on voit qu'il a remodelé complètement le pôle, comment il s'appelle, le Castellet?
Oui.
Qui s'appelle donc le High Speed Track...
High Tech Test Track, HTTT.
Donc il y a bien le mot test dans le nom du circuit, donc ça peut se comprendre qu'il y ait de nombreux dégagements goudronnés pour éviter d'abîmer les prototypes ou les véhicules qui seraient en test sur cette piste-là. Mais là, c'est une piste de course. Ce sont des pistes de course. La course, elle doit rester dans la piste.
Mais...
s'il y a des dégagements, c'est faire payer cash les erreurs des pilotes.
Le problème, c'est pas les dégagements en l'état, je pense. Le problème, c'est que d'une, l'astroturf ne sert à rien parce que les voitures ont assez d'appui pour rester stables dessus. Et de deux, il faudrait les dégagements d'asphalte à la limite, pourquoi pas, mais il faudrait genre 1 ou 2 mètres de bande avec de la vraie bonne herbe pour que les voitures puissent pas rester à fond en ayant des roues en dehors de la piste. C'est plutôt ça le problème que d'avoir des dégagements en asphalte. Si t'avais un dégagement en asphalte mais 1 ou 2 mètres de largeur d'herbe entre la piste et le dégagement, je pense que le problème n'aurait pas lieu d'être, quoi. Là on a juste une ligne blanche entre le dégagement en asphalte et la piste en asphalte aussi. Du coup, c'est sûr que c'est compliqué de rester dessus. S'il y avait juste une bande d'herbe qui rendrait pas dangereux une sortie plus que ça, ce serait un problème un peu moins. Il y aurait pas de problème à ce niveau-là, je pense.
Alors, je vais peut-être paraître idiot, mais l'AstroTurf, n'est-ce pas simplement une manière de rendre jolis les abords des circuits plutôt que d'avoir à dépenser de l'argent dans l'entretien de l'herbe, justement?
Au départ, c'était pas comme ça que c'était vendu, en tout cas. L'AstroTurf, c'était censé, effectivement, peut-être pour une raison de coût, mais en tout cas, c'était censé jouer le même rôle que de l'herbe, ralentir les voitures et éviter qu'on sorte trop des limites de la piste, que les pilotes profitent des dégagements pour sortir de la piste. Le problème que l'AstroTurf, on a vu à plusieurs reprises que soit ça ne servait à rien, soit en deuxième lieu, soit c'était vraiment dangereux parce que ça s'arrachait au passage des voitures. Donc le bilan de l'AstroTurf, il est franchement pas bon.
Alors pour l'AstroTurf, je pense que c'est un matériau que la FIA devrait proscrire. Et retour peut-être à ce que tu parlais d'une vraie dégagement en herbe pour limiter ces problèmes que la FIA a dû régler sur des passages hors piste. Je pense que ce serait déjà... Parce qu'on l'a bien vu, comme vous disiez précédemment, ça nous a été vendu comme étant un matériel qui devait ralentir les monoplaces. Ça ne le fait plus ou ça ne l'a jamais fait peut-être. On l'a vu cette saison que c'est potentiellement dangereux quand ça s'arrache. Je pense que il faudrait peut-être revoir ces zones-là.
Bah, Grosjean en Hongrie avec de l'herbe, on se pose pas la question de pénalité ou pas pénalité. Donc d'office.
Et voilà, mais après moi je préconise pas qu'on remette de l'herbe de partout, hein. Déjà parce que c'est un coût pour les écuries qui ont entrepris des travaux pour faire des dégagements, mais qu'on remette au moins une bande d'1 à 2 mètres de large qui fait que effectivement mettre des roues dehors sera pénalisant vraiment, parce que oui, là le problème c'est qu'après derrière s'il y a trop d'herbe, c'est beaucoup plus dangereux. En cas de pluie, l'herbe ça ralentit absolument pas. Alors que l'asphalte te ralentit beaucoup plus que de l'herbe mouillée, quoi.
Non, mais si tu remplaces l'AstroTurf par de l'herbe.
On parle juste de l'AstroTurf.
Oui, mais le problème, c'est que l'AstroTurf, c'est localisé sur un circuit. Là, pour être sûr que, quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de problème niveau limite du circuit, il faudra en mettre partout. Partout, de chaque côté, sur une bande d'1 ou 2 mètres, comme je l'ai dit. Mais sur toute la longueur du circuit. Parce que sinon, t'auras toujours une exception, un problème qui va arriver à un endroit qui n'a pas été prévu. Enfin, toujours s'ouvrir la porte, de pas prévoir des cas, quoi.
C'est vrai que ça serait problématique à Abu Dhabi, où la limite de piste est délimitée par une zone bleue.
Rien qu'à Abu Dhabi, justement, avec le problème entre Alonso et Vergne, il y aurait eu 1 ou 2 mètres d'herbe. Ben, le problème, ce serait pas... Alonso, il aurait dû perdre du temps comme ça. Même si c'est Vergne qui le pousse hors de la piste, il aurait perdu du temps, on n'en aurait pas autant parlé que là.
Il n'aurait pas fait tout son cinéma en fin de saison.
On arrive au podium, et en 3e place, il a marqué 1831 points, c'est Fernando Alonso. Que j'ai mis 3e, Destino l'a mis 2e, comme Gus Gus, et Ben, tu l'as mis 4e.
De ouais, retour bah, un peu, hein. Ça fait un moment qu'on l'avait pas vu à Paris Fête.
Ah oui. Et pourtant, il paraissait pas super optimiste après la qualif. Il était 3e, ce qui était déjà vachement bien. Et il disait, ouais, bon, on va voir ce qu'on peut faire et tout. Et finalement, ça s'est très bien passé.
Non, ouais. Belle course. Il se loupe aussi un peu, lui, en qualif.
Ouais, ça reste marginal.
Il dit qu'il aurait pu aller chercher la 2e place. J'ai plus les écarts sous les yeux. Cela dit, 3e, c'est très très bien. Ça fait un moment qu'Alonso n'a plus fait une saison sans être en première ligne.
Oui, sinon sur la course d'Alonso, Non, une belle course. C'est vrai que c'est étonnant de le voir donner la réplique au Red Bull alors que ses dernières courses, il n'était pas à ce niveau-là. Mais on l'a dit, et je le redis, voilà, c'est un week-end très spécifique, très très étrange. Donc.
Ah ouais, c'est sûr que la troisième place de qualif, il a profité un peu des conditions. Parce qu'il faut toujours aller les chercher.
Ouais, mais j'ai pas l'impression qu'il aurait été sixième ou cinquième. C'est pareil, il avait la performance pour remonter. C'était très clairement la troisième place. C'était la place qu'il fallait qu'il aurait eu de toute façon vu les écarts qu'il y a derrière. Button, il est 20 secondes derrière.
Oui, parce qu'en course, effectivement, il tient le rythme de Weber. Hein. Il repasse devant au ravitaillement parce que Weber a un petit souci. Weber le repasse très vite, mais il est jamais largué.
Non, et il est là pour leur mettre la pression quand ils font des choix un peu bizarres avec les... Enfin, bizarres. Non, mais quand ils se précipitent un peu sur la stratégie. Ouais. Il est pas largué, du coup, ben il y a la menace et il ressort
non,
pas
il
loin,
rythme,
du coup. Voilà.
Il tient le rythme de Weber, ce qui
alors,
est pas si mal.
Oui, surtout que Weber, quand il l'a dépassé, enfin, il l'a fait en début de course, en tout cas, il est revenu dessus très rapidement. Et c'est après qu'il est resté... il est resté longtemps à 4 ou 5 secondes où on s'est dit mais c'est finalement il perd pas trop de temps par rapport à Weber par rapport à ce qu'on aurait pensé.
Je crois que Weber avec Alonso il fait comme Vettel avec Rosberg.
Oui, au premier tour.
Après un tour il passe. Mm. Sauf que Weber prend moins vite le large même s'il y a un gap mais ça se stabilise plus vite.
Oui.
Entre les deux et effectivement après Alonso reste au contact. De Weber, ce qui est bien. C'est pas la bonne Red Bull, mais ça reste... ça permet de finir la saison sur une bonne note, il finit troisième.
C'est ça qui le requinque pour dire, allez, je vais rester un mois à l'usine, je vais bosser.
De toute façon, Red Bull bosse bien, c'est ça aussi qui fait leur force. On les voit dès vendredi matin, ils roulent avec
les capteurs,
outils de mesure sur la voiture. Voilà, ça s'arrête jamais. Donc Alonso, il sait très bien, je pense qu'il sait ce qu'il doit faire. De son côté, pour essayer d'aller chercher Vettel l'an prochain. Il
ouais,
faut qu'il...
mais c'est pas dans tout Ferrari que ça a fait ça ce week-end. Hein. Quand on a vu Massa, il prenait des photos, il faisait des autographes sur les bras des mécanos, tout ça. Alors que dans le stand Red Bull, Vettel faisait des changements de volant d'urgence, faisait une simulation de changement de volant. C'est le truc qui arrive toutes les 25 ou 40 courses et il a profité du fait qu'il n'y ait pas de roulage à faire pour faire ça pendant que dans quasiment tous les autres stands.
Ouais.
Enfin, non, peut-être, c'est un peu dur quand même de dire ça. Mais en tout cas, dans le stand Ferrari, on se la coulait douce, quoi. Enfin, c'est...
Ouais, parce qu'Alonso, il prenait effectivement des photos avec ses mécanos, Massa qui signait des autographes sur les bras. Le mécanicien était très fier de le montrer tout le reste du week-end.
Mmh. Ah, il s'est pas lavé, gros dégueulasse.
Mais non, c'était de la délébile. Et moi, Alonso, j'aurais pu aussi le mettre troisième, mais voilà. Button a fait une très belle course, et comme ils n'ont pas eu de vrai podium cette saison, McLaren, c'est pour ça qu'Alonso est derrière. Sinon, ça s'est joué vraiment à pas grand-chose.
Mais tu es bon.
Ouais, oui, mais oui. J'ai failli être très bon pour le deuxième aussi, mais bon.
Ça te perdra.
Comme toujours avec lui, il lâche rien, il va jusqu'au bout. Quand il a une opportunité, il la saisit. Ce Grand Prix, il a eu l'opportunité d'arriver à se classer sur la deuxième ligne. Il n'est pas arrivé depuis longtemps. Il a fait sa course, il a réussi à se maintenir pas très loin des Red Bull. Enfin, une course comme Alonso sait les faire. Même s'il n'a pas la meilleure voiture, il est capable de sublimer sa voiture.
Alors Alonso a fini troisième du classement, mais il n'a pas été très loin de finir deuxième. Puisque le deuxième a marqué 1838 points. Cette semaine, il faisait sa dernière course avec la RB9, puisque l'an prochain, il roulera dans une RB10, c'est Sébastien Vettel.
Attendez, deuxième?
Alors, il faut dire, Destino l'a mis troisième, sinon Ben, Gugus et moi, on l'a mis premier. Oui, il y a eu une espèce de prime à la retraite cette semaine.
Une prime de risque?
Mais j'avoue que j'ai voulu aussi faire pareil, et puis je me suis dit, en même temps, il y a quand même 10 secondes d'écart, il y a quand même sa pole de Vettel qui va chercher, bon, de nouveau, c'est une nouvelle raclée pour les autres.
Et 10 secondes d'écart, sachant qu'en plus, il en perd beaucoup plus que Weber à l'arrêt au deuxième arrêt.
Ouais, après l'arrêt, il y a 6 secondes. Après l'arrêt, il y a 10 secondes avant, il y a 6 secondes après, et il termine à 8 ou 9 secondes.
Quoi qu'il arrive, il était plus rapide.
Donc je me suis dit, voilà, il y a effectivement le fait que Weber termine sa carrière, mais objectivement, Vettel, voilà, ils auraient terminé à une seconde, peut-être que j'aurais effectivement placé Weber premier. Mais là, de nouveau, va Vettel la pole. Qu'est-ce que tu veux dire, quoi? Effectivement, à la limite, il y a aussi le fait que tu, pour ne pas le mettre premier, que tu dis encore. Mais oui, mais voilà, il est, oui encore, mais il le mérite, quoi. Il, ouais, fait
il
le
triche
boulot,
pas.
Garçon.
Il y a eu quand même ce sacré arrêt.
Ouais, alors ils nous disent, parce que moi sur le moment, ce qu'on peut comprendre sur le moment, c'est que tu vois Bottas pneu arrière crevé, tu vois Hamilton pneu arrière crevé. Ça fait longtemps qu'ils sont pas rentrés au stand. Ça fait 23 tours et 24 qui sont rentrés au stand avec des médiums. C'est à peu près la même longueur que leur premier arrêt, que leur premier relais avec des médiums aussi. Tu te dis, il y a des crevaisons, il faut rentrer tout de suite. Et d'ailleurs, ils sont pas les seuls. Alonso rentre.
Ils ont pas dit aussi, enfin, plus ça a été évoqué, qu'ils avaient eu un peu peur qu'il y ait une safety car.
Oui, voilà.
C'est et qu'ils se sont jetés justement dans la.
Moi, au départ, je pensais tout de suite à des crevaisons de Pirelli, ce qui, très franchement, vu le déroulement de la saison, aurait pas été très étonnant, malheureusement. Mais effectivement, après, autant Roquelin sur Canal Plus que Horner sur Sky ont dit que c'était ils avaient peur qu'un safety car sorte et que du coup ils se sont. Le problème, c'était pas tant le safety car que le fait que s'ils étaient restés sur la piste, ils seraient arrivés tout de suite sur le safety car qui serait là, qui aurait été de là tout de suite, donc ils auraient pas. Ils auraient été ralentis et les autres se seraient tout de suite rassemblés derrière et donc ça aurait fait un arrêt au stand 2, ils auraient été tous rassemblés. Là, ils ont appelé Vettel en urgence, ce qui était pas prévu parce que c'est Weber qui devait rentrer à ce moment-là. D'où le fait que, ses pneus étaient pas prêts et tout, parce que apparemment ils sortaient du virage, du dernier virage quand ils l'ont appelé. Donc lui, il a pu se préparer, mais pas les mécanos.
Personnellement, je l'ai classé troisième, Vettel. Certes, il a fait une course très bonne. Là, il a eu donc cette difficulté-là avec, quand on l'a rappelé au stand assez tardivement. Il a fait perdre du temps, mais il a réussi à la récupérer une fois en piste à nouveau. Mais comme c'était le dernier Grand Prix, j'ai préféré donner une petite prime à la retraite, comme l'a dit Shinji tout à l'heure, à Weber et lui donner la première place et dégrader Seb en troisième place. Efforts à la fois de Weber et d'Alonso. Dernière course. Sûrement émotionnel sur ce.
Et donc vous l'aurez compris, hein, c'est Mark Weber, hein, avec 2116 points, voilà, qui finit premier de cette dernière course de la saison.
C'est la victoire du cœur.
Oui. Il y en a qui ont reproché à Vettel de pas lui avoir laissé la victoire. Mais en même temps, est-ce que c'est un vrai cadeau que d'offrir une victoire comme ça, voilà, moi je m'en fous,
si ça
je te donne les restes.
Et que Weber en eût été content, hein, parfait de subjonctif, j'aurais été franchement déçu que Weber en s'en soit contenté, quoi. Parce que c'est pas une manière sportive d'obtenir une victoire, ça n'aurait eu aucune valeur sportive, comme par exemple des victoires de Barrichello, où on sait très bien que Schumacher soit passé sa course juste derrière Barrichello, juste pour que Barrichello gagne, soit ils essayent de faire égalité, mais bizarrement c'est Barrichello qui gagne, hein. C'est Indianapolis 2002, c'est quand même... Pour moi, Indianapolis 2002, c'est encore plus scandaleux que l'Autriche. L'Autriche, à la limite, tu peux entendre des raisons et tout, que personnellement je cautionne pas, parce que tu choisis un pilote au lieu de... Moi, personnellement, les consignes d'équipe, à partir du moment où justement c'est des consignes d'équipe, et pas des consignes pour avantager un pilote par rapport à l'autre, moi j'entends très bien, je les accepte. Quand on favorise un pilote par rapport à un autre, que ce soit, quelles qu'en soient les raisons, que ce soit pour faire un cadeau à un pilote, ou que ce soit pour assurer la position en championnat d'un autre, personnellement j'ai beaucoup plus de mal parce que c'est pas respecter le sport et la logique sportive qui veut qu'un pilote a été meilleur qu'un autre sur ce week-end et donc c'est lui qui mérite plus le fruit de son travail que l'autre. Là je suis content que ça ne se soit pas produit à ce moment-là, personnellement.
Oui, encore que de nouveau, peut-être que si les écarts avaient été plus faibles, on aurait pu. Mais là, il y a quand même 10 secondes. Alors oui, Vettel aurait peut-être pu rendre la victoire que Weber n'a pas eu en Malaisie. Mais enfin bon, voilà. Sincèrement, je suis pas sûr que ça aurait fait plaisir à Weber. En plus, je pense que vu les relations un peu tendues, je pense qu'il l'aurait peut-être pris comme un ultime affront. Maintenant, partir sur un podium, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. J'ai fait la liste, il y en a 15 qui ont fini un podium sur leur dernière course. Et encore, tu peux retirer, tu n'en as plus que 8. Tu retires tous ceux qui ont fait un podium à l'Indy 500 de l'époque où c'était aussi dans le championnat.
Oui, tu peux l'enlever. Oui.
Et 3 pilotes, Clark, Josipher et Gilles Villeneuve,
c'est
pardon,
un podium avant
qui ont fait un podium mais qui sont décédés après. Donc en fait, il n'y en a plus que 8 qui ont vraiment pris un podium sur leur dernier départ. Et un seul qui a gagné, c'était Luigi Fagioli en France, c'était en 1951. Oh. Voilà.
Personnellement, j'aurais bien vu si jamais Vettel s'était arrêté pour laisser passer Weber. Weber s'arrêtait devant la ligne et laissait passer Alonso.
Non, quand
même. Puis Alonso aurait laissé passer Massa, donc.
C'était Massa qui gagnait. Mais ouais, non, finir sur le podium, c'est quand même 42e, je crois, de Weber sur sa carrière. Un chiffre dégueulasse.
Il y a pire.
On a pas mal critiqué Weber pendant sa carrière, le fait que voilà, il était contre Vettel. Il aura quand même pas fait une carrière dégueulasse.
Non, mais déjà, il n'y a pas grand monde qui fait 12 ou 13 ans en F1.
Déjà, 9 victoires, voilà, c'est le 33e pilote.
Et puis parmi les Australiens, il doit être. Bon, il n'est pas premier, ça c'est sûr, parce qu'il y a
Brabham et Jones.
Voilà. Mais derrière, il doit pas être
Jones qui ont fini leur dernière course par un abandon. Il y a beaucoup de pilotes. C'est ce qui m'a marqué dans les. En fait, j'ai regardé tous les pilotes qui avaient fait un jour un podium. Et puis j'ai regardé ceux qui l'avaient fait pour leur dernière course. Il y a beaucoup de pilotes qui ont terminé leur carrière par un abandon. Donc Weber, il avait l'intelligence de s'arrêter avant de tirer trop sur la corde, de devoir rouler dans des équipes moins bonnes, de plus être au niveau simplement. Et là, bah, il finit effectivement. Il y a que 8 pilotes
et puis,
qui ont fait un podium pour leur dernière course. 9 maintenant.
Je le dis à chaque fois, mais il va pas se dorer la pilule en Nouvelle-Galles du Sud, hein, Marc Weber. Il va chez Porsche en WEC, il fait les 24 heures du Mans.
Mais je pense que c'est Jackie Ekelhardt qui était anciennement, qui a travaillé chez Sauber, chez Baronda et chez HRT en F1, qui aujourd'hui est en DTM, qui disait que les pilotes plus âgés de la F1 font souvent des bons pilotes d'endurance parce qu'ils ont toujours cette pointe de vitesse. Weber l'a prouvé, il a quand même fait des pôles, il a fait des podiums, même cette saison il en a 8, je crois. Et ils ont plus la folie des petits jeunes.
Ouais. Voilà.
Donc ils ont cette pointe de vitesse et ils peuvent gérer sur une plus longue distance. Donc effectivement, Weber pourra faire un très bon candidat à la victoire au Mans, c'est quand même pas mal.
On l'a souvent entendu dire qu'il quittait la F1 parce qu'il aimait pas l'aspect gestion des pneus, l'aspect où il n'y a pas d'attaque à un moment ou à un autre. Le truc, c'est qu'il va dans une discipline où tu peux pas attaquer à fond, enfin... En même temps, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit ces derniers temps. C'est vrai qu'on dit davantage que les 24 heures du Mans sont plus, ouais.
Surtout
ouais,
en LMP1. C'est vrai.
Non, c'est vrai.
Faut aussi dire que c'est pas le même manufacturier, donc ça sera pas les mêmes pneus. On passe à des Michelin, je crois, chez Porsche. Donc, peut-être qu'ils seront plus consistants et qui permettront à Weber d'attaquer.
Vu les pointes de vitesse qu'on a vu actuellement sur l'MP1.
Mais c'est vrai que sur le papier, ça me semblait un petit peu. Non, mais vous avez raison. C'est vrai que l'endurance en ce moment, c'est plus des courses.
C'est du sprint quasiment. Il y a qu'à voir là sur les 6 heures, sur les épreuves de 6 heures ou 1000 km, c'est un sprint. Il y a que les 24 heures du Mans. C'est vraiment une course d'endurance.
Au Japon, ça a duré 16 tours et puis après, c'était joué.
Ah non, il prend sa retraite de la Formule 1, il prend pas la retraite du sport auto.
Oui.
Là, il va avoir un beau petit programme quand même l'an prochain. Un beau gros programme d'essai, je pense, avec Porsche. D'ailleurs, il avait déjà un t-shirt Porsche à l'aéroport de Saint-Denis.
On perd pas de temps.
Oui.
On a vu ça passer sur Twitter. Et puis l'image quand il rentre au stand sans son casque, une image sympathique, comme de l'image.
Ce sera pas mon drive-thru. Mais on avait vu déjà à Singapour que la sécurité c'était pas le premier de ses soucis. Les donuts encore ça passe, mais franchement enlever son casque c'est vraiment inconscient, je trouve. Enfin, bon, je sais que je suis minoritaire sur ce sujet, donc j'espère qu'il aura gobé une mouche.
Ben ça aura défait son brushing. Hein.
Non, c'est vrai que c'est une image sur.
C'est vrai que c'est rare. Hein.
Ouais, mais j'ai pas souvenir d'avoir déjà vu ça, en fait.
Bah, la seule fois où on voit quelqu'un sans casque dans la voiture, c'est quand t'as un ingénieur pour tester le moteur, je sais pas quoi, dans
l'instant. Surtout qu'il il a dû le mettre entre ses jambes ou, enfin, contre lui.
Il avait quand même eu, en fait, il a fait ça sans réfléchir, et il a quand même eu à un moment donné peur de pas pouvoir tourner, comme il faut dans
la gauche. Mais c'est même pas ça, c'est qu'à un moment, justement, il s'est coincé, il pouvait pas tourner à gauche.
Il s'est
dit en conférence de presse, it was jammed, c'était coincé, ça s'était bloqué.
Et donc au classement final du SAV cette année, vous savez, c'est la dernière course, donc là c'est le classement complet, hein. Vettel finit donc avec 350 points devant Alonso 264, Hamilton 190, Raikkonen 177, Grosjean 172, Massa 161. J'ai oublié Weber qui est à 182 avec, donc il est 4, c'est lui qui est quatrième du classement, 182. Rosberg 143, Hülkenberg 75, Button 68, Di Resta 29, Perez 26, Sutil 24, Vergne 22, Ricciardo 13, Gutiérrez 10, Bottas 6, Bianchi 5, Maldonado 2, qui sont que, y a quoi? Donc, non pas marqué de points, donc de facto, il y a Chilton, les deux pilotes Caterham et Kovalainen. Au classement des équipes, Red Bull 529, Ferrari 428, Lotus 349, Mercedes 333, McLaren 94, Sauber 85, Force India 54, Toro Rosso 35, Williams 8, Marussia 5, Caterham 0. Voilà, c'est votre classement à vous qui avez voté tout au long de l'année.
Félicitez aussi Vettel qui est au championnat du monde FIA et aussi champion du monde des constructeurs. Voilà, puisqu'il a 397 points et que Mercedes deuxième a 360 points.
Non mais, comme quoi finalement, malgré tout ce qu'on a pu dire dans certaines courses où Vettel était un peu comme là, mais bon là, limite ça peut se comprendre, mais un peu comme là où il n'était pas classé premier alors que très franchement c'était un peu comme une évidence. Bah et finalement la marge qu'avait-elle au classement du SAV,
il a moins de marge, mais il en a une belle.
Le classement est relativement bien respecté.
Au classement FIA, en effet, Vettel 397, Alonso 242, Weber 199, Hamilton 189, Raikkonen finit cinquième, hein, 183. Et chez les constructeurs, parce que c'était quand même ça ce qui nous intéressait le plus, hein, ces dernières courses, Red Bull 596. Je sais pas si c'est un record.
Non, ils avaient fait 650.
Ah oui, c'est
en 2011. 2011. Weber a fait une meilleure saison que cette année.
Mais j'ai remarqué un truc, c'est que c'est assez dingue, c'est qu'en 2011, Weber ne gagne qu'une course.
La dernière.
Et Silverstone.
Non, la dernière.
Non, c'est le Brésil.
Problème de boîte de vitesse, entre guillemets, de Vettel.
Ouais. Et que ici, cette année, il en gagne pas, alors que Vettel, fin de saison, domine outrageusement. Donc quand Vettel domine, avec la Red Bull, Weber a plus de mal.
C'est Mercedes qui aura les numéros 3 et 4 l'an prochain, ils ont marqué 360 points. Ferrari est 3ème, 354. Lotus qui fait son premier zéro pointé de la saison, 315.
Au meilleur moment.
McLaren 122. Hein, donc finalement, voilà. Ils ont quand même réussi à arracher la 5ème place. Largement devant Force India, Sauber, Toro Rosso.
Et qu'on ne vienne pas nous dire que la FIA est pro-Ferrari, parce que cette sanction coûte quelques millions de dollars à Ferrari. La pénalité de Massa, elle coûte quelques millions de dollars, parce que sans ça, il aurait probablement été quatrième et Ferrari était deuxième...
Troisième. Non, deuxième, oui.
Attends. Ils auraient passé, il n'y a que
voilà,
six points.
Voilà, tout à fait.
Donc, ouais, ils auraient été deuxième du championnat.
On va passer aux faits marquants. Et d'abord, les drive-thru.
Moi, ça va être un drive-thru sur les commissaires de piste qui, sincèrement, pénalisaient Hamilton pour l'incident avec Bottas, à la limite.
Moi, les commissaires de piste ou les commissaires de course?
Les commissaires de course, pardon.
Oui.
Moi, je considère ça comme un fait de course. Ça peut arriver, c'est dommage pour les deux pilotes. Et pénaliser Hamilton et ne pas pénaliser Maldonado, qui ferme quand même largement la porte sur Vergne, qui est à sa hauteur à l'intérieur de l'entrée des S de Sénat. Bon, alors d'accord, Maldonado est pénalisé tout seul parce qu'il part en toupie, mais bon, Hamilton aussi est pénalisé parce que de toute façon, il a un problème de roue. Là, je trouve un problème de cohérence.
Ah, je sais pas. Moi, je trouve que c'est bien jugé de pas mettre de pénalité sur Vergne et Maldonado. Parce que finalement, c'est compliqué à se dire de qui c'est la faute. C'est à ce moment-là, enfin, autant Vergne il va alors qu'il est derrière, et autant Maldonado ferme alors qu'il y a Vergne. Donc, c'est plutôt partagé.
Oui, mais Vergne à l'entame du virage est quand même bien à la hauteur de la Williams, quoi. Donc c'est vrai qu'il va forcément de peu plus loin parce qu'il est forcément il est derrière pour doubler, c'est plus facile.
Oui.
Mais Maldonado, il est en position où il peut laisser la porte. Je trouve qu'il referme un peu ostensiblement.
Maldonado n'a jamais laissé une porte ouverte.
Non.
Mais enfin bon, c'est aussi, ça revient à dire, on déploie un pilote parce que de toute façon, il va nous mettre dans le mur.
Le problème, c'est qu'il faut que, faudrait que dans le logiciel de Verne, ils se disent, je me bats contre Maldonado. C'est un peu ce qu'on avait reproché à Hamilton, à Valencia l'année dernière. Il a essayé, je sais pas si c'est Maldonado qui revenait ou si c'était Hamilton.
C'est Maldonado qui revenait et Hamilton avait les pneus en compote.
Voilà, donc faire attention à son adversaire quand tu te bats contre Pérez, Gutiérrez, Maldonado, voire Grosjean à un certain moment de sa carrière. Tu n'agis pas pareil que quand tu te bats contre Weber ou Raikkonen ou quelqu'un dont tu sais qu'il, même s'il va te défendre très très rugueusement, de manière très rugueuse, va savoir à quel moment lâcher l'affaire. Maldonado n'a jamais été capable de faire ça.
Non, mais si tu n'es pas capable de faire ça, je suis désolé, ce genre de pilote n'a pas sa place en Formule 1 ni en sport auto.
Ah, en sport auto, je sais pas. Mais... En NASCAR, non, mais voilà. On l'a dit tout à l'heure.
Je comprends bien qu'effectivement, de toute façon, tout le monde le dit. Enfin, quand tu vois des superbes dépassements Weber, Alonso, Raikkonen, oui. Schumacher, ils le disent. On sait avec qui on le fait. Le dépassement au pied du raidillon, Weber et Alonso, ils l'ont dit. On sait avec qui on tente le coup. Et si tu restes derrière un pilote et tu dis « Ah, je vais aller quand même sur des œufs, je vais rester derrière parce que le type, c'est un fou furieux. » Excuse-moi, mais je suis d'accord qu'il y a des pilotes avec lesquels tu prends plus de précautions. Et il y a précaution et précaution, quoi.
Après, sur l'incident entre Hamilton et Bottas, c'est quand même pas la même chose. Hamilton, c'est une faute d'Hamilton. Il l'a pas. C'est une faute d'Hamilton. Oui, il l'a pas vu. Il l'a tassé. Et ben, malheureusement.
Ah oui, non, mais je dis pas qu'Hamilton n'est pas fautif, mais voilà, effectivement, il le voit pas. Pour moi, c'est ce genre de truc qui voilà, ça peut arriver. C'est aussi, ça fait partie du sport auto, voilà.
Moi, je suis davantage choqué par Hamilton qui derrière dit non mais je comprends pas et tout ça, faut que je revoie des images, parce que lui a subi exactement la même chose de Grosjean, où Grosjean l'avait pas vu, etc., l'avait tassé. On sait ce qui s'est passé derrière.
Ouais.
Si à partir du moment où il dit où lui qui a subi ce genre de choses dit non mais moi je suis pas d'accord, etc. C'est quand même assez fort de café, quoi. C'est toujours le même recul des pilotes sur les situations dans lesquelles ils sont impliqués.
Ah oui, bah c'est-à-dire que oui, dans avec Grosjean, c'est lui qui subit, et ici, c'est lui qui attaque, entre guillemets. Donc, effectivement, il n'a pas la même vue. Mais oui, c'est lui qui va au contact, mais effectivement, il ne le voit pas.
Il y a aussi le fait que Bottas soit un retardataire à ce moment-là, parce qu'il est à un tour d'Hamilton, il est sur des doubles. J'en ai vu beaucoup critiquer Bottas. Le fait est qu'Hamilton, c'est l'année dernière à Hockenheim aussi, je crois, était exactement dans la même situation avec Vettel. Il a dépassé Vettel. C'était Hamilton aussi. Enfin, Hamilton, je sais pas s'il a critiqué Bottas sur le fait qu'il soit à un tour, mais s'il l'a fait, il aurait fallu lui aussi qu'il s'applique la même chose quand il était dans cette même situation.
Enfin, et voilà. D'autres ont fait pareil. Vettel s'est fait dédoubler par plusieurs pilotes.
Oui, oui. Bah, c'est ce moment où ils restent tous en piste parce qu'ils craignent une averse et qu'il faudrait rentrer au stand et que finalement c'est là en fin de peloton que tout le monde est plus rapide que devant, quoi.
D'autres drive-through?
Où qu'il est.
J'ai donné le mien. Je vais donner un drive-through à Massa par son comportement après avoir reçu l'ordre de faire son drive-through. On voit que normalement réaliser l'action dans les deux tours après que lui ça signifiait sa pénalité. Et moi sur la radio télévision canadienne, les commentateurs ont fait la remarque comme quoi Massa désobéissait et il est quasiment rentré au troisième tour pour faire sa pénalité. C'est bien que c'est sa dernière course chez Ferrari, que c'est la dernière course saison, mais les règles sont les mêmes pour tout le monde, même si ça peut paraître injuste. Lui apparemment c'est celui qui a fait le plus de fois ce passage dans cette zone zébrée. Peut-être que le fait de faire un tour supplémentaire ou pas de répondre tout de suite à la demande de son équipe de rentrer au stand faire son drive-through, parce qu'on entend bien son ingénieur lui signifier, c'est perdre peut-être la possibilité d'être plus haut dans le classement à la fin.
Ils ont pas trois tours pour le faire, leur drive-through, leur pénalité.
Ils ont le droit de passer deux fois la ligne, mais pas trois fois. Donc ça fait deux tours et demi, entre 2,9 tours et deux tours, quoi, si tu veux, par rapport à l'endroit où au moment exact où tu reçois la pénalité.
Ouais.
Mais j'ai pas compris, tu lui donnes parce qu'il a désobéi ou parce que selon toi il est rentré trop tard?
Les deux.
parce qu'il désobéit, qu'il rentre trop tard en ne respectant pas les consignes de son équipe.
Oui, mais en respectant le règlement. Je veux dire, il...
Oui, enfin, moi, c'est de ce que j'avais, l'interprétation que j'avais de la diffusion que j'ai pu voir sur Radio-Canada, pour moi, il n'avait pas effectué dans les deux tours. Ça, il avait fait plus que les deux passages sur la ligne. Avant d'effectuer son passage dans les stands.
J'ose espérer d'après quand même la FIA aurait à ce moment-là pénalisé, enfin l'aurait exclu.
Oui. La FIA aurait.
Il y a déjà eu un précédent en 94. Choix, mais... Après sa réaction sur le coude quand tu l'entends crier, effectivement le fait de désobéir, bon c'est pas c'est moyen. Après sa réaction quand tu l'entends crier dans la radio, c'est une réaction à chaud, enfin c'est pas non plus scandaleux quoi. C'est...
Pas le premier, c'est pas le dernier.
Hamilton a la même réaction que lui. Hamilton, au moment de voir l'information de sa pénalité, a la même réaction que lui. Il n'y croit pas, mais il exécute la pénalité tout de suite dans le tour où il reçoit l'information. Comme quoi, il doit passer au stand.
Ah, c'est sûr.
Comportement, deux situations différentes.
Alors, mon drive-through, c'est plus un regret. C'est concernant la pluie. C'est pas tant sur cette, non, c'est...
Je mets un drive-thru à Dieu.
Non, c'est pour ça que je dis que c'est un regret, bien sûr.
Brésil,
on ne commande pas.
Toi, tu vas te fâcher avec Lewis.
On ne commande pas la pluie. Alors, c'est pas tant par rapport à ce week-end que sur toute la saison, puisque malgré le temps très particulier qu'on a eu dimanche, finalement, il y aura eu aucune course sous la pluie en 2013. Je parle de course, hein. De course, même ce week-end, hein, malgré le temps pourri qu'il y a eu, c'était finalement une course sur le sec, et c'est dommage parce que on sait que la pluie ça pimente les courses, et notamment sur la deuxième partie de saison, voilà, on se dit quand même que une ou deux courses sous la pluie, ça aurait pu être un peu agréable. C'est dommage, peut-être qu'on va avoir un retour de karma, peut-être que l'an prochain ça va être un déluge pendant 19 courses, allez savoir.
Et pourtant, on en a eu de la pluie, quoi. Dès
ah oui,
le départ,
c'est ça.
Q3 reporté au dimanche, c'est quand même un truc
exceptionnel.
Il y a eu plein
de pluie le vendredi, le samedi, même ce week-end, mais finalement, aucune course réellement sous la pluie. Donc c'est dommage, parce qu'on sait que c'est toujours intéressant, que ça met en valeur le talent des pilotes, puis ça aurait mis un peu de sel dans certaines courses pas très passionnante.
Surtout à Interlagos, la pluie à Interlagos.
Ah, mais c'est la folie, les courses sous la pluie à Interlagos.
C'est toujours spectaculaire.
Voilà. Et même sur le sec, on a eu une belle course. Quand tu penses que l'année prochaine, ils veulent terminer à Abu Dhabi.
Oh là là.
Tu peux mettre un deuxième drive-thru à la FIA.
Pour celui-là, y a pas de souci.
Non, sérieusement, quoi, les mecs. Terminé à Abu Dhabi, mais vous êtes fous.
Alors, moi, mon drive-thru, bah c'est un peu pareil à la FIA et au commissaire, parce que alors il se trouve qu'à Austin, Vettel est sorti devant je sais plus une Caterham ou une Marussia, pas d'investigation, il est sorti tout blanc et tout ça. Je réclamais pas qu'il soit pénalisé, mais au moins qu'on étudie le cas juste pour nous dire bah c'est bon, il y a pas eu de gêne. Et là jeudi, Pic et Van der Garde sont arrivés en retard en conférence de presse. Et le vendredi, on apprend que les commissaires se sont saisis du dossier, ont enquêté sur le fait que Pic et Van der Garde arrivent en retard. Ils leur ont pas donné de pénalité, mais ils ont quand même enquêté pour savoir le pourquoi du comment, de pourquoi ils sont pas arrivés à l'heure en conférence de presse.
Bah attends, c'est vachement plus grave!
Mais c'est quand même, c'est quand on marche sur la tête, quoi. On se fait des débats sur des accidents en piste, de coupable par coupable, Hamilton, Bottas, etc. La FIA va jusqu'à enquêter pourquoi les pilotes sont en retard en conférence. Je trouve qu'on marche vraiment sur la tête. Alors pendant ce temps-là, Vettel, il peut faire ce qu'il veut au stand. Je dis pas qu'il y a un complot et tout ça contre les petites équipes et qu'on n'embête pas les grandes équipes par rapport aux petites. Mais quand même, aller emmerder Caterham parce que à cause d'un malentendu, hein, ils ont évidemment pas fait exprès d'arriver en retard en conférence de presse. Mais parce qu'à cause d'un malentendu, ils sont en retard en conférence de presse. C'est quand même bien fort de café, quoi.
C'est... Surtout que pour Pic, ça a dû être dur d'investiguer, puisque lui, effectivement, c'est lui qui est arrivé le plus en retard.
Oui.
Il est arrivé en s'excusant, disant qu'en fait, il a problème d'horaire, je crois. Il était en train de faire son tour de piste avec ses ingénieurs. Donc lui, il a expliqué, voir quoi.
Oui, mais voilà, ça arrive à tout le monde de se tromper sur des heures. Nous, on fait des enregistrements, des fois, je sais pas trop à quelle heure c'est, enfin, je veux dire...
Est-ce qu'ils ont investigué? Parce que je crois que Weber est arrivé très en avance, lui, à la presse.
Bon, j'ai trouvé ça incroyable. Surtout qu'en plus, c'est pas un truc qui est vraiment repris par les médias, parce que c'est des communiqués publiés en loose day sur le site de la FIA. Faut vraiment aller les chercher pour les voir. Et, Quand j'ai vu ça, j'ai été, mais franchement...
Ouais, mais normalement, c'est le genre de communiqué qu'a aussi publié Camille en salle de presse.
Ouais, ouais.
Ou quand tu fais ton petit tour
et ça n'a choqué, quotidien. Et ça n'a choqué personne, ça, c'est incroyable.
Mais c'est vrai que moi, j'avais pas vu l'info. Je vais pas souvent sur le site de la...
On va revenir sur les faits marquants. Nous vous avions posé la question, bien évidemment, comme chaque semaine, pour le Grand Prix des États-Unis. Vous avez été 118 à voter. Un beau score, 118. Merci à vous tous. De la même façon, merci à tous ceux qui ont voté cette semaine et même toute l'année au top 10. Est arrivé dernier avec 24 votes, Sébastien Vettel, l'émotif qui verse sa petite larme. Troisième avec 26 votes, Pastor Maldonado sabote sa course et celle de Sutil tout seul comme un grand. 32 ah, votes, oui.
C'était celui qui avait la plus longue.
Oui, ah bah celle-là.
Déclaration.
Ah, 32 votes. Pour remplacer un Finlandais, on a eu droit à un Allemand, un autre Allemand, un Italien, un Brésilien, un Vénézuélien. Mais à la fin, c'est un Finlandais qui gagne. Et encore une fois, qui c'est qui a gagné? Qui c'est qui a gagné au fait marquant? Dites-le. Dites-le, c'est qui? C'est qui?
Shinji.
C'est moi. 36 votes, 30,51%. Grosjean brise le plafond de verre de la troisième place. Mais il en reste encore un au-dessus.
Mais comment? Mais je ne comprends pas. Je ne comprendrai jamais.
Pourtant, la mienne avait du potentiel. Sincèrement.
Je dois avouer que j'ai voté pour celle-ci.
Mais pourquoi?
Parce que c'est de la poésie.
Oui, plafond de verre. Ça va aller,
ouais. Nous, on essaye d'être sérieux, ah, monsieur, de verre, c'est de la poésie.
Pour ceux qui sont dans la porcelaine, pourquoi pas, mais...
C'est pas le SAV de la poésie, hein. Oh, va créer un podcast dissident.
Donc moi, je vous laisse faire. Hein. Moi, de toute façon, je sais que je fais le choix de dernier, mais non, puisque j'ai gagné.
De toute façon, le dernier de la bande, c'est pas moi, c'est pas moi qui commence.
Bah, honneur à l'auditeur, allez.
Ouais, c'est vrai. Soyons courtois.
Quel fait marquant. Romain Grosjean dit au revoir à sa saison dans un panache de fumée. Ça, c'est ridicule, mais...
C'est gâché, hein. Il y avait tellement de façons de mieux le tourner, je trouve.
Sinon, moi, Marc Weber, cheveux au vent. T'as vu, j'ai fait court, en plus.
Oui, oui, non, c'est très bien. Hein. C'est très très bien.
Vettel, 2 points. La RB9 portait bien son nom. Ça va faire 0, mais j'ai l'habitude. Parce que 9 victoires consécutives, tout ça.
Ah, d'accord, oui.
Tu vois, voilà, c'est oui, pour ça que d'accord. Ça va faire 0.
Oui,
faudra écouter l'émission avant de voter. Le problème, c'est que personne fait ça.
Non. McLaren, 2 points. Ça commence à marcher, mais c'est un peu tard.
On a le gagnant, hein.
Oh.
Donc, cette semaine... Alors, peut-être qu'on donnera les résultats la semaine prochaine dans le bag. Voilà.
La première nouvelle. Déjà, il y a un mag la semaine prochaine.
Ouais, mais ce sera le dernier.
C'est bien que tu prennes des initiatives comme ça.
C'est le dernier mag de l'année. Il faut bien terminer sur un mag.
Je note, mais... C'est pas courant.
Non, mais en plus, on a des questions pour le répondeur, donc...
Ah.
Voilà, rien que pour ça.
Pour Adelin.
Voilà, puis ça fera un peu bilan et tout ça. Bon.
Et si on faisait un conseil de classe?
On fera un mag classique, ce sera déjà bien. Donc, cette semaine, pour le dernier fait marquant de l'année, le fait marquant du Grand Prix du Brésil, vous aurez le choix entre Romain Grosjean dit au revoir à sa saison dans un panache de fumée, Marc Weber, cheveux au vent, Vettel, la RB9 portait bien son nom, ou bien McLaren, ça commence à marcher, mais c'est un peu tard. Donc je ne vous dis pas où voter, puisque de toute façon vous nous écoutez, et donc que le sondage est marqué juste en dessous, sur la page du podcast de cette semaine du Grand Prix.
Sauf si vous nous écoutez par iTunes ou etc.
Oui, dans ce cas-là, faut vous rendre sur le site fan-f1.com, sur le post du podcast du Grand Prix du Brésil. Messieurs, c'est aussi le dernier concours top à position de l'année.
Non, pourquoi?
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours top à position. Franchement, si vous avez compris les règles, vous êtes déjà un champion.
Non, mais ça va être rapide.
Personne n'a trouvé.
Si, on a eu des bonnes réponses.
Ah, moi je me souviens du numéro de la page.
Oui, c'est vrai que je crois que le numéro de page avait été évoqué. Bon,
ouais.
On ne demandait pas juste le numéro de page quand même, hein, faut bien le dire.
Non, 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 mais moi, Adelin avait été assez précis que pour le donner.
Parce que la question c'était, dans quel album de Michel Vaillant, dans quel album Dino a aidé à accompagner Michel Vaillant? Parce que oui, Dino ne nous avait pas dit ça. Oui, il est dans
oui,
un circuit.
Il est, hein, il fut une Ferrari dans un autre temps. Hein, c'est pas ça.
Non, 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 c'est un vrai personnage. Et la réponse c'était dans l'album Le Circuit de la Peur. Alors, pour reprendre ce qu'une des bonnes réponses a marqué, hein, que Dino Falconetti accompagne Michel Vaillant au sein de l'équipe Europe, ainsi que le Belge Art Bergmans, l'Anglais Bill Ricks et l'Allemand Von Richter. Étant italien, il pilotera une Ferrari Testarossa, une Ferrari GT, ainsi qu'une autre Ferrari. Il sera supporté par son mécanicien Aldo Benetti. Alors, nous avons eu 4 bonnes réponses, donc qui ont cité le circuit de la peur. Alors, bien évidemment, on n'a pas demandé de questions, hein. Donc, j'ai pris les 4 bonnes réponses.
Ah, tout ça va être très, très télégénique, je trouve. Très radiophonique.
Je les ai mis sur le tableau Excel. J'ai mélangé un peu, histoire qu'elles ne soient pas dans l'ordre chronologique. Mmh. D'accord? Et donc, je vais vous demander un numéro, mais pas entre 1 et 4.
Non, ça serait trop.
Il faut qu'on se mette... Mais il faut qu'on se mette d'accord.
Faut que vous vous mettiez d'accord sur un numéro.
C'est très important.
Voilà. Vous devez choisir un numéro entre le numéro 73 et 76.
Déjà, est-ce que Destino a joué?
Non. Donc il peut prendre part. Je précise, hein, il n'y a que moi qui ai les noms. Hein. Personne n'est au
courant. Entre 73 et 76 inclus?
Oui. Donc 73, 74, 75 ou 76. Parce que je l'ai mis dans le tableau du concours. Donc ça vous donne une idée du nombre de personnes qui ont un ticket quand même pour le tirage au sort final. Sachant que celui qui gagnera sera enlevé, donc il y aura a priori 75 tickets. Je sais pas comment on va faire le tirage de ça, mais il va y avoir du boulot.
C'est ce qui arrive quand on fait des beaux cadeaux, hein.
On leur enverra chacun un 75e de casque.
Ils auront le truc en kit.
Donc j'ai mélangé, donc ils sont même pas par ordre chronologique que je les ai reçus.
Ni par ordre alphabétique, un ordre totalement.
Au pif, ils sont que 4 en même temps.
Oui.
Personnellement, je serais pour le 76.
C'est un choix qui se défend.
Ouais. Moi, j'allais dire le 74, personnellement, mais bon.
Mais moi, connaissant Shinji, qui est originaire, me semble-t-il, du département 76, à mon avis, il y a Magouille.
Non, s'il n'y a pas Magouille.
Et là, la personne qui a le 76, même si elle ne le sait pas toujours, elle ne le sait pas encore, elle tremble un petit peu. T'as dit combien, Ben?
J'ai dit le 74, moi.
Je voterai également pour le 74, qui est un département proche de chez moi.
Donc, vous...
Faut-il l'unanimité?
Bah, ouais, donc, enfin...
Sinon, on coupe la poire en deux et on met 75. Si je vote 75, on fait la moyenne et la moyenne, elle fait 75. On joue un petit peu avec les nerfs des auditeurs et j'aime ça. J'aime ça, personnellement.
Parce que le 73, c'est pas mal, non plus.
C'est vrai que c'est proche aussi de chez moi, le 73. La Savoie, la Haute-Savoie.
C'est tendu.
On pourrait très bien rester jusqu'à minuit, hein, comme ça.
Ah, mais quand même, non. Hein, c'est que... Non. Oui.
Et je pense que les gens se lasseraient, tu vois.
Ouais, on passe sur le 74.
Et 74.
Ça, 74.
La décision est prise.
Parce que le 75, c'est pas mal, quand même. Non, je rigole.
Le 74, 74.
Moi, je veux le 74.
Tu veux le 74?
Ah oui, c'est différent.
Eh bien, c'est Victor, hein. Je crois, attends, est-ce qu'il a pas déjà gagné? J'ai vérifié, parce que là, j'ai le tableau. J'ai le grand tableau.
La feuille Excel qui met 8 ans à
s'ouvrir. Non! Oui, il avait gagné à Abu Dhabi.
Ah bah, il aime bien la fin de saison, lui. C'est le Vettel du concours.
Oui, ou le Grosjean, enfin. Donc oui, donc c'est Victor. Et hop, je fais copie-colle, clac!
Mais quel était le cadeau, Chine?
Eh bien, c'était une casquette. Mais Victor aura le choix. Il aura le choix. Soit il pourra choisir la casquette Red Bull de Sébastien Vettel, ou bien la casquette spéciale champion du monde. Puisqu'en fait, c'est le cadeau, en fait, du dernier Grand Prix, c'est la casquette du champion du monde. Mais il a le choix. Soit la casquette normale, soit la casquette spéciale 4. Donc, je lui enverrai un mail, il pourra me dire son choix, puis j'enverrai à Steph Core, et puis Steph Core, il fera tout, et puis... Puis bon, il recevra ça dans 3-4 ans, voilà. Ah. Donc sinon, hein, je peux le dire, voilà, on a accumulé 75 tickets pour le tirage au sort final. On fera dès qu'on pourra, faut qu'on s'organise.
Il y a beaucoup de choses
à s'organiser. Voilà, il y a beaucoup de choses à s'organiser. Mais sachez que voilà, toute la liste des tickets est bien au chaud. Hein.
Déposer chez huissier, mettre en foireuse.
Et chez Google Drive aussi, hein, pour tout dire.
Hein. Google a des infos.
Voilà. Mais Google a des infos sur tout le monde depuis déjà bien longtemps, tu le sais bien.
Mais...
On arrive plus ou moins à la fin de l'émission. Je vous rappelle pas les adresses pour le concours, hein, ça ne sert à rien. Donc, a priori, hein, voilà, je pense qu'on fera un dernier mag la semaine prochaine, mais ce sera le dernier de la saison. Faut pas tirer sur la corde. Donc, si jamais...
C'est vrai que ce sera notre 40e émission de la saison.
Comme l'an dernier, donc voilà.
Voilà.
Si vous avez des questions pour le répondeur, n'oubliez pas, il y a soit l'adresse mail répondeur@savf1.fr ou bien via le module audio, hein, qui est sur le site savf1.fr.
Profitez-en, on sait pas si ça sera reconduit l'année prochaine, hein. Donc, si vous avez des questions, dépêchez-vous.
Voilà, profitez-en, on ne sait pas. C'est pour ça, il y a une dernière émission, donc profitez-en. Mais, vu qu'on a un invité, on a quand même le défi. Est-ce que, Destino, tu as préparé les 7 choses que l'on peut faire avec 40 euros?
Je vais pas être très original et je ne suis pas arrivé aux 7 choses à faire. Je peux vous proposer une version.
Nous t'écoutons.
Alors, déjà, je me rends à mon cinéma, donc il faut que je prenne les transports en commun. Un ticket, c'est 1 euro. Ensuite, arrivé au cinéma, comme je consomme le cinéma assez régulièrement, je prends un carnet d'abonnement. Ça coûte 27,50 €, 5 places. Ensuite, comme je vais voir un film en 3D, il faut que je rajoute 2 euros à ce montant. Ça va être à 30,50 €. Je prends de quoi... profiter de ma séance avec une boisson et des bons becs, ce qui fait 4 euros de plus. Après avoir profité de ma séance, je vais discrètement voir un projectionniste et je lui demande si je peux récupérer l'affiche du film que je viens d'aimer. Généralement, ça me coûte un pack de canettes. Ils sont pas très difficiles. Ou alors du café.
Ah, disons un café, 1 euro si on a de la chance.
Non, je te parle le pack de café moulu, je te parle pas juste d'un simple café.
Ah oui, quels sont les prix du marché à ce moment-là?
On prend pas trop bas de gamme, sinon ils le prendraient mal, donc 4 euros, un pack de 4, 250.
Il fait les comptes gus-gus.
Si mes calculs sont corrects, il te reste 1,50 € pour faire deux choses. Déjà, je te proposerai un billet de retour si tu veux rentrer chez toi pour le bus.
Oui.
1 euro.
Oui.
Il te reste 50 centimes.
En tout dernier recours, voilà. Il te reste 50 centimes pour une dernière chose. Je sais pas, pour le Téléthon.
Ouais, 50 centimes pour le Téléthon.
Chaque euro compte, ils nous le disent pendant
le compteur. Oui, des euros, pas des demi-euros.
C'est vrai qu'il n'y a pas la place sur le compteur.
Oh, ça va. En plus, voilà. Il ne te manquait pas grand chose, donc ça va.
Oui, on va dire ça comme ça.
On vous rappelle comme d'habitude que le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur Pod Radio, sur la chaîne Alpha, c'est sur Podcast France, c'est sur Facebook, c'est sur Twitter avec le compte officiel @leSAVF1. Inscrivez-vous.
Suivez.
Vous n'y gagnerez rien à part le fait de nous suivre.
Mais à nous 7, on doit avoir 1000 followers, quoi, à nous 7, parce que Dino en a quasiment 600. Et le compte n'a que 80 ou 82 followers en ce moment, c'est juste scandaleux. Mmh. Donc suivez ce
oui.
Compte.
J'en fais partie des suiveurs.
Hein. Eh bien, nous
oui,
t'en remercions.
On n'en doute pas.
Parce que surtout, c'est le problème est que chacun d'entre nous, on retweet pas forcément tout ce qui se passe avec ce compte-là.
Oui.
Donc, par exemple, bon, déjà, il faut dire que Dino, apparemment, ne lit pas lui-même le compte, parce qu'il a remis cet après-midi, on fait pas de direct ce soir, mais vous nous retrouverez, vous retrouverez le podcast demain. Mais nous-mêmes, on retweet pas forcément ce qui se passe sur ce compte, donc c'est important pour que vous soyez au courant de ce qu'on fait, quoi.
Comme d'habitude, n'oubliez pas, la F1 sur Internet, c'est sûr.
FanF1.com.
Parce que le SAV de la F1, c'est...
la famille.
Merci Destino de nous avoir accompagnés pour cette dernière course de la saison.
Merci à vous.
Tu te reposes là, Shinji? Tu te sens mieux?
Oui.
C'est fini?
Il y a encore quelques trucs à faire, tu sais bien.
Oui, on parle non. Pas. Quelques petits trucs, oui.
Mais oui. N'en parlons pas. On est comme tout le monde, on prépare 2014, c'est tout ce qu'on peut dire.
Oui,
on prépare
oui.
2014.
Il faut concevoir, il faut faire les essais, et après il faut arriver, faut publier,
oui.
faut voilà.
Voilà, en tout cas, merci à tous, même ceux qui nous écoutent, nous avoir accompagnés, parce que il y en a parfois qui ne nous suivent que pour les SAV d'après-course, donc merci à vous de nous avoir accompagnés toute cette saison. Dans ce cas-là, on vous dit à la prochaine. Sinon, voilà, comme je l'ai déjà dit, on va faire, voilà, un dernier mag la semaine prochaine, pour bien finir la saison. Et, alors, Dino n'est pas là, mais Gus, comme tu remplaces Dino, tu
Je ne voudrais pas faire de l'ombre à Ben qui est avec moi ce soir.
Oui, mais Ben, lui, n'a pas cherché de proverbe. Enfin, pas à ma connaissance.
Voilà. C'est ce qui nous différencie avec Ben, c'est que lui manque de prise d'initiative.
Tu as cherché un proverbe, Ben? Voilà.
Absolument pas.
Un proverbe brésilien, d'ailleurs, qui est « Le bonheur est quelque chose qui se multiplie quand il se divise ».
And it's lights out!